l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 décembre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 18, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Vous ne m'en voulez pas trop après nos petites chamailleries d'il y a un mois.
La petite escarmouche.
Bon, eh bien, écoutez, je vous embrasse et soyez aujourd'hui parfaitement détendus parce que très détendus.
Mais je le suis. Ouais.
Alors, comme d'habitude, avec Dominique Vénère et Philippe Conrad, nous avons des invités. Alors, Philippe Conrad va nous rejoindre dans quelques instants. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Bernard.
Et nous avons deux invités aujourd'hui, Albert Hylaine, nous présenterons Albert Hylaine tout à l'heure, et Jean Mabir.
Bonsoir Bernard.
Nous ne présenterons pas Jean Mabir, nous parlerons de Jean Mabir, enfin tous les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent Jean Mabir. Alors une émission qui va être essentiellement consacrée à Jean Mabir, à son œuvre. Et nous allons commencer immédiatement la petite partie africaine, car aujourd'hui nous allons avoir une petite partie africaine. Et je vais demander à Dominique Vénère de l'introduire, cette petite partie africaine.
Oui, Bernard Lugan, j'ai devant les yeux une coupure de presse toute récente qui évoque un procès que vous avez gagné, un nouveau procès que vous avez gagné en diffamation. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Ah, excellent, absolument. Donc l'émission démarre très fort, chers auditeurs, puisque ça s'est passé hier. Le tribunal de Lyon a rendu un jugement tout à fait intéressant et j'ai gagné mon procès contre le syndicat gauchiste de l'UNEF. J'en avais parlé à nos auditeurs il y a quelque temps, une affaire qui est... C'est un feuilleton. Je vais prendre 5 minutes parce que c'est une affaire extraordinaire qui montre qu'il faut vraiment se battre et qui montre qu'il faut absolument jamais cesser de combattre quand on lance ce genre d'affaires. Il y a 2 ans, le syndicat UNEF distribue à tous les étudiants qui vont s'inscrire à toutes les universités de Lyon un guide. Le guide de l'étudiant, qui est un guide qui explique où sont les restos U, etc. Tous les guides pratiques. Et au milieu, il y a 2 pages de diffamation sur l'université Lyon 3 et sur votre serviteur. Alors que disait-on de votre serviteur ? Eh bien que j'étais un négationniste et que j'avais fait soutenir une thèse antisémite. Bien évidemment, je fais constater par huissier la distribution de ce petit guide. Je fais un référé. L'UNEF capitule en référé et retire le guide. Mais moi, je continuais mon action, donc je porte plainte contre X. Un juge d'instruction est désigné, le juge d'instruction commence son enquête, et le juge d'instruction décide d'arrêter son enquête. Il se dessaisit. Je passe donc par la cour d'appel, la cour, en termes de droit, l'on appelle cela, je crois, la cour d'appel, la cour d'instruction, la chambre de l'instruction, qui désigne un nouveau juge d'instruction. Le nouveau juge d'instruction fait son enquête. Il trouve les responsables, mais il rend un avis disant qu'il y a amnistie. Amnistie parce que le président de la République, lors de son élection, il y a 1 an et demi, avait décrété une amnistie. Or, cette amnistie ne s'appliquait pas aux diffamations envers des fonctionnaires. Or, et en détenteur d'autorité, je suis un fonctionnaire. Ce qui fait que je repasse une deuxième fois devant la cour d'appel. La cour d'appel de Lyon me donne raison une deuxième fois. Désigne un nouveau juge d'instruction. Le nouveau juge d'instruction est obligé de suivre les avis de la cour, du parquet, et voilà le procès qui a lieu. Et le procès qui a donc lieu il y a 2 mois. Et nous arrivons au tribunal, et là, manifestation de l'UNEF. Parce que ces messieurs occupent le tribunal. La salle était occupée par les gens de l'UNEF. Au moment où je commence à être interrogé en parlant de l'Afrique, se lèvent des Africains en disant « C'est une honte, on ne peut pas supporter qu'un individu pareil parle de l'Afrique. » Et le président est obligé de les faire expulser. Donc c'est une affaire extraordinaire, parce qu'on a une manifestation dans la salle. Les avocats de la partie adverse de l'UNEF m'insultent, comme je n'ai jamais été insulté dans ma vie. Quelqu'un m'insulte comme ça dans la rue, il prend mon poing dans la figure immédiatement. Vous êtes obligé de rester calme, le calme des vieilles troupes. Et je me suis dit, bon, l'affaire est très très mal partie. Et mon avocat a été superbe, comme d'habitude, Maître Valrand Saint-Just, qui m'a gagné tous mes procès. Là, je crois que c'est mon 16e ou 17e procès.
Oui, je voulais vous poser la question.
Oui,
combien de procès gagnés?
16 ou 17. 16. Je ne sais pas quoi.
Il me les a... À ce point-là, on ne peut ne pas se souvenir du chiffre exact.
C'est un sans faute. Un sans faute. Et Maître de Saint-Just plaide d'une façon magnifique. Et le président du tribunal m'interroge. Et il me dit, écoutez, monsieur Lugan, vidons l'abcès. Pourquoi avez-vous porté plainte étant donné que l'UNEF a retiré le document? Je dis oui, l'UNEF a retiré le document, mais l'UNEF ne m'a pas présenté ses excuses. Moi, je veux les excuses de l'UNEF et je veux un document officiel disant que mon nom a été mis par erreur et que je n'ai rien à voir avec les accusations qui sont portées par l'UNEF. L'UNEF ne l'avait pas fait. Donc, jugement. Et hier, j'ai gagné. L'UNEF est considéré comme m'ayant gravement diffamé. Et l'UNEF est condamnée à me verser des dommages d'intérêt, pas très importants, mais tout de même, les frais de procès seront payés, et voilà donc une nouvelle victoire. Et ceci est très intéressant, et ceci montre bien qu'il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder, parce que si on cède une fois, c'est terminé. Imaginez que j'ai cédé, là. Tous les étudiants qui venaient s'inscrire à Lyon 3 avaient entre les mains un document, votre professeur, et ceci, ceci, cela. Bien ensuite, ils se seraient appuyés là-dessus pour dire, et ensuite la campagne aurait été lancée pour demander mon exclusion de l'université. Donc, c'est une affaire là qui va les bloquer et qui va leur apprendre à vivre une fois de plus. Et je pense que cette affaire va être la dernière, parce que maintenant ils sont rendus prudents. Au bout de 17 procès perdus, l'affaire...
C'est un adversaire dangereux.
Oui, un adversaire qui, hélas...
Hélas,
se bat dans les prétoires, qui préférerait se battre sur le pré. Mais malheureusement, nous avons les armes de notre siècle. Il faut utiliser les armes de notre siècle, hélas.
Mais il se serait dérobé.
Bien sûr. Mais avec mes grandes jambes, j'aurais rattrapé. Il se serait dérobé. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans ce procès, c'est de voir la pression. Ils ont essayé de faire la pression sur le tribunal jusqu'au bout. La salle était pleine de manifestants, avec le regard haineux des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas mes étudiants, qui arrivaient de diverses universités. Et l'avocat de la partie adverse a fait un meeting politique. Un vrai meeting politique. Et là, nous sommes tombés sur des juges qui sont des vrais juges et qui m'ont donné, en première instance, je n'ai même pas eu besoin d'aller en appel, qui m'ont donné raison sur toute la ligne. Donc la presse lyonnaise, bien embêtée, car j'ai fait un communiqué tout de suite. Hier soir, communiqué à toute la presse lyonnaise, à l'AFP, etc. Bernard Lugan se félicite d'avoir remporté une victoire. Oui, mon communiqué, c'est le suivant. Encore une victoire judiciaire pour Bernard Lugan, etc. Le syndicat UNEF avait distribué aux étudiants venant s'inscrire aux universités lyonnaises un guide pratique portant des imputations de faits précis contraires à mon honneur et à ma considération, etc., etc. Dans le contexte de l'université Lyon 3, ces imputations étaient très lourdes. Après plusieurs mois d'instruction et 2 arrêts de la chambre d'instruction, la justice m'a donc totalement donné raison. Il s'agit là d'une nouvelle grande victoire qui devrait rendre enfin plus prudents ceux qui, depuis des années, ont fait leur fonds de commerce des attaques contre l'université Lyon 3 et entrepris de diffamer le professeur Lugan, lui prêtant des opinions qui ne sont pas les siennes.
Et donc c'est un fonds de commerce qui leur a pas rapporté?
Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que maintenant, il va falloir qu'il paye. Alors, comme l'UNEF est en faillite et comme le président est poursuivi, eh ben, je pense que le président va aller faire des petits métiers pour me payer. Parce que moi, l'huissier est chez lui. Dès que le jugement est arrivé, le lendemain, l'huissier est chez lui. Parce que pas de cadeau. Hein. On fait la guerre, on ne la fait pas. Dès que le jugement est là, dans les 48 heures, l'huissier, toc, toc, monsieur. Votre télévision, votre... Peut-être que je n'utiliserai pas cet argent. J'offrirai peut-être ça à une société de bienfaisance. Mais dans tous les cas, lui va payer. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est bon. Voilà une affaire qui démarre bien. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre M. Delannoy. Le dernier procès cours,
oui,
c'est celui contre
Y a-t-il du nouveau à ce sujet?
Contre Monsieur de Chaise-Martin.
Oui.
Parce que le seul inculpé dans l'affaire, mis en examen, c'est Monsieur de Chaise-Martin. Monsieur Delannoy, pour le moment, n'est pas dans le cercle. Mais Monsieur de Chaise-Martin, lui, est mis en examen. Alors, le jour où il y aura ce procès, je préviendrai les auditeurs, parce qu'il faut vraiment assister. Il faudra venir au tribunal pour assister. Ça pourrait être vraiment drôle. Là, nous allons nous amuser. Monsieur de Chaise-Martin poursuivi pour exclusion. J'utilise contre lui la loi qui a été faite contre les videurs de boîtes ne laissent pas rentrer les gens au faciès. Et moi, je l'utilise contre Monsieur de Chaise-Martin, qui m'a donc exclu d'une fête au prétexte que mes idées ne lui plaisaient pas. Je ne sais pas quelles idées d'ailleurs, quelles sont les siennes non plus. Mais voilà donc le problème. Et là, nous allons nous amuser. Je pense que l'affaire va arriver au tribunal d'ici un an et demi. C'est long, c'est très long. Oui, voilà.
Bon, vous savez, Bernard, ces procédés d'exclusion sont assez largement utilisés.
Oui, même dans des milieux très proches de nous.
Oui.
Bon, ne nous étendons
ne
pas
nous
là-dessus.
Étendons pas.
Voilà. Eh bien, voilà ce que nous pouvions dire sur cette question du procès. Je vais en parler parce que les auditeurs sont toujours très friands de cela. Je reçois beaucoup de coups de téléphone où en sont vos procès. Mais voilà, chers auditeurs, mon 16e ou 17e procès gagné. Je vais bientôt devoir faire un deuxième tome à mon petit recueil de procès. Je commence à devenir un habitué des prétoires. Je vais pouvoir faire une deuxième carrière bientôt d'avocat, parce que là, je commence à avoir une grande habitude de sédante armatogué. Enfin, bien, nous terminons la partie africaine.
Dites-moi, Bernard, oui, avant de terminer la partie africaine, j'aperçois sur la table devant vous deux livres. Alors, je crois en reconnaître un, God Bless Africa, et j'en vois un deuxième qui lui ressemble un peu, mais qui est néanmoins différent. De quoi s'agit-il?
Ah, Dominique, oui, il s'agit en fait de God Bless Africa contre la mort programmée du continent noir, qui vient d'être réédité, parce que la première édition était épuisée. Le premier tirage de 7000 exemplaires vendus.
Bonne nouvelle.
Il n'y en a plus. Sans la moindre publicité de la grande presse. Pas un article je n'ai pas eu un seul article dans la presse. Si vous voulez, de livre en livre, j'ai de moins en moins d'articles dans la presse. C'est extraordinaire. Et mes livres se vendent de plus en plus. Il y a un problème. Comme quoi, la presse ne sert à rien. Preuve que la presse ne sert à rien et que les critiques de presse ne servent strictement à rien. Alors, donc, ce livre a été épuisé. Donc, il est retiré, réédité, nouveau numéro d'édition. Il y avait quelques coquilles qui ont été supprimées, quelques petits ajouts. J'ai réintroduit dedans ou de passage, notamment sur la génétique avec les travaux de Lucotte. Donc, c'est ce livre qui ressort depuis 2-3 jours et que j'ai sous les yeux. Et l'édition anglaise, l'édition américaine, qui enfin est disponible. Elle a été longue à sortir parce qu'il y a eu des problèmes de distribution, mais elle est sortie alors sous un titre différent, avec une très belle couverture, une couverture dure en carton, et le livre déjà est en train de démarrer très très fort aux États-Unis. Il faut dire que ce livre démarre très fort parce que en quatrième de couverture, j'ai une petite note d'un personnage qui est important, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis pour l'Afrique de l'Ouest, qui était basé au Sénégal et qui rayonnait sur l'ensemble de l'Afrique, et qui est un homme qui dirige le Peace Corps. Le Peace Corps, qui est la grande ONG à tendance plutôt tiers-mondiste. On pourrait croire plutôt tiers-mondiste. Et cet ambassadeur me fait 6 lignes en disant qu'il faut lire ce livre, car, dit-il, ce livre remet véritablement en perspective l'histoire africaine. Donc ce livre va faire... Alors, la presse française n'en parle pas, peu importe, aucun journal français n'en parle, peu importe, mais là, dans le monde anglo-saxon, ce livre va faire très mal, et ce livre va vraiment avoir un écho considérable.
Oui, il y aura un écho dans la presse, c'est important.
Aux États-Unis, oui. Ce qui fait que les perroquets de presse français, parce que comment travaillent une grande partie des journalistes français, ils lisent le Wall Street Journal, ils le repompent, et le lendemain, nous retrouvons les grandes tendances du Wall Street Journal dans la presse française. Donc, dans 6 mois, on va parler de mon livre. Parce que la presse américaine en aura parlé. Bon, ce sont des suivistes, vous savez. Ils ont bien été formés dans ces méthodes, dans leur drôle de système de formation. Ah voilà, donc le livre qui sort en anglais, The African Legacy. Le titre est différent, hein, c'est l'héritage africain. Et donc c'est ce livre que vous aviez sous les yeux, Dominique. Mais nous en parlerons. Les auditeurs qui auraient l'intention de commander l'édition anglaise le feront par l'Afrique réelle. J'en aurai quelques exemplaires assez rapidement. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, je vais recevoir les premières caisses d'exemplaires en anglais, parce qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui veulent l'édition anglaise pour leur propre culture personnelle. Voilà, donc c'est un livre qui vient juste de sortir, The African Legacy. C'est la version américaine. Il y aura une autre version pour le monde anglais. Cette version américaine est déjà en vente en Afrique. Elle commence déjà même à avoir un grand succès en Afrique australe. Ouais. Nous sommes déjà en réapprovisionnement en Afrique australe.
C'est le même éditeur qui couvrira également l'Angleterre ou la Grande-Bretagne.
C'est la maison Carnot. Oui. C'est une maison qui est originale parce que c'est une maison qui est basée en France, ouais, et qui est son propre éditeur pour les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Angleterre. Et donc c'est très intéressant parce que tout est suivi. Ce ne sont pas des droits qui sont vendus à des maisons extérieures. Il y a des distributeurs par pays, mais l'éditeur est français.
C'est toujours le même.
C'est français. Ouais. C'est un groupe éditeur français qui, à partir de la France, édite dans toutes les langues, toutes les grandes langues du monde. Le livre sort en espagnol, en portugais, incessamment. Il doit sortir en Allemagne et en allemand, je pense, au mois d'avril ou au mois de mai. C'est en cours. Le livre est en cours de traduction. Voilà pour ce qui est de ce livre. Alors pour l'actualité africaine, bien nous allons être très rapides.
Oui, petite question, Bernard, si tu permets, au sujet de ton livre français qui vient d'être réédité.
Oui.
Les gens qui veulent en commander s'adressent soit à leur libraire ou bien directement à l'éditeur.
Non, ils s'adressent.
Oui, c'est la première édition.
C'est le même livre qui est réédité, ou bien s'ils veulent un exemplaire dédicacé à l'Afrique réelle.
À l'Afrique réelle.
Mais je donne l'adresse tout à l'heure. Les gens m'écrivent à l'Afrique réelle. Alors, le courrier est un peu long en ce moment avec l'Afrique réelle pour une raison très simple, c'est que je suis donc à Lyon et j'ai pas mal de voyages à faire en Afrique, donc je ne rentre pas à Charroux régulièrement, ce qui fait que le secrétariat qui s'occupe de gérer à Charroux a les piles de livres et attend mon retour pour les dédicaces. Ils ne peuvent pas dédicacer pour moi malheureusement, donc il y a un petit peu de retard. Alors pour l'actualité africaine, que pouvons-nous dire? Eh bien, que les événements de Côte d'Ivoire sont toujours au premier rang. Les accords de Marcoussi, bien évidemment, n'ont rien résolu du problème, parce que ce problème ne peut pas se résoudre d'une façon politique à l'européenne. Le problème est très clair, on l'a déjà dit 10 fois, la Côte d'Ivoire n'existe pas. 3 grands ensembles ethniques sont emprisonnés dans des frontières artificielles. Et il est bien certain que tant que nous ne reconnaîtrons pas la réalité de l'existence de ces peuples, eh bien, il est également non moins certain que les accords de briques et de broc ne pourront qu'être des pansements sur une jambe de bois. Donc la solution est toujours une solution de gestion de crise, mais jamais d'anticipation de crise. Alors, autre problème qui se passe à l'heure actuelle, la Somalie, rien ne bouge, ou plutôt, on recommence à se massacrer en Somalie. Donc là également, nous sommes dans la même situation. Je n'en parle pas parce que nous avons déjà consacré des émissions à cela. Il y a des numéros spéciaux de l'Afrique réelle qui sont consacrés à la question. Si les auditeurs sont intéressés, nous leur enverrons, donc à nous écrire. Et autre question, le problème de la guerre du Congo Zaïre, la RDC, où à l'heure actuelle, l'on essaie de régler le problème d'une manière politique, et là encore, le règlement politique ne va rien changer, parce que les grandes constantes historiques sont là, le Congo Zaïre est coupé en 3 grands ensembles, un ensemble atlantique, un ensemble sudiste autour des savanes au sud de la forêt, et l'ensemble de l'Est, l'ensemble autour du Kivu, et du Nord Katanga. Il est bien évident que ces 3 ensembles n'ont pas vocation à vivre dans le même conglomérat politico-ethnique, et il est non moins certain que tant que l'intangibilité des frontières sera le dogme officiel, eh bien, l'on ne réglera absolument aucun problème dans cette Afrique. Alors cette Afrique me conduit directement à notre premier invité. Notre premier invité qui est Albert Hylène. Albert Hylène, vous êtes un homme complet. Vous êtes médecin de formation, vous êtes pilote de ligne, vous étiez pilote de ligne, vous venez juste de prendre votre retraite, il y a eu peu de temps. Oui, bon, vous continuez à piloter, vous pilotez toujours, mais enfin, vous ne transportez plus des passagers.
Je transporte encore des passagers dans une petite compagnie d'air à faire parce que je ne suis plus agréé porteur.
Oui, parce que, tout à fait.
Compte tenu de mon âge.
Compte tenu de votre âge. Et vous êtes un grand connaisseur de l'Afrique parce que par votre métier de pilote, vous avez rencontré à peu près tous les chefs d'État africains. Vous êtes allé à peu près partout en Afrique et la zone qui vous intéresse le plus, c'est le Sahel. Alors, vous êtes surtout, un homme tout à fait intéressant parce que vous avez créé il y a 25 ans déjà, une ONG, une organisation non gouvernementale. Je ne suis pas tendre avec les ONG. Généralement, je les critique. Je les pourfends, ces ONG. Et là, je vous invite. Parce que vous avez créé le type même de l'ONG intelligente. Le type même de l'ONG intelligente, parce qu'elle est faite par des gens de terrain, parce qu'elle est faite par des gens qui ont une vision globale, et des gens qui ne sont pas des porte-avions de l'immigration. Parce que la plupart de ces ONG, comme toutes les organisations qui tournent autour de la francophonie, ce sont en fait d'immenses passerelles à déraciner les Africains pour les transplanter chez nous.
Exactement.
C'est-à-dire que vous, c'est exactement le contraire. Vous faites absolument le contraire. Alors, expliquez-nous comment vous avez fondé cette association qui s'appelle Action Sahel. Et quelle est son originalité?
Bien, merci d'abord Bernard de me recevoir aujourd'hui à Radio Courtoisie. Merci messieurs de m'accepter également. Historiquement parlant, vous l'avez dit, j'ai commencé à connaître l'Afrique d'une manière un peu plus sérieuse sur le terrain, bien que pilote et connaissant l'Afrique déjà d'avant, mais comme pilote, on va d'une grande ville à l'autre, on va dans le meilleur hôtel de la ville et puis on repart le lendemain, on n'a rien vu. Là, le hasard a voulu que je sois contacté à l'époque en 79 et les années suivantes par Thierry Sabine, qui organisait ce fameux Paris-Dakar, oui, et qui m'a demandé si je pouvais l'aider tout au début avec un avion pour l'aider à traverser le Sahara, le Sahel, etc., ce que j'ai fait. Et dès la première année, dès 79 et surtout dès 80 et pendant 16 ans, nous avions le temps, nous en tant que pilotes, d'être là dans les villages, dans les oasis où le rallye se posait le soir, nous avions le temps de voir ce qui se passait. Et alors nous avons eu d'emblée un choc extraordinaire de voir cette grande misère, de voir ces gens qui survivaient à cette époque-là, je parle d'il y a quand même 25 ans maintenant. Et très vite, une petite équipe, nous avons décidé de les aider. Alors, au départ, on a commis l'erreur pendant un an de ce que font tous les gens qui vont là-bas, qui constatent cette grande misère, ce délabrement dans les villages, dans les oasis sud-sahariens et sahéliens. Nous avons un peu saupoudré, là, mettons un petit peu de matériel et de matériaux divers dans nos avions, médicaments, etc. C'est pas la bonne chose, hein. Je le dis et nous nous battons contre ça. Ce saupoudrage ne sert à rien. Et très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il faut les aider d'une autre façon et d'une façon sérieuse. Donc, nous avons pris contact dès les années suivantes, et nous avons d'abord créé cette association, Action Sahel, nous avons pris contact dès les suivantes avec les responsables des villages, des oasis, des bourgades, en leur demandant quels étaient leurs besoins. Les besoins sont toujours les mêmes au Sahel et dans l'Afrique en général, mais surtout au Sahel. C'est l'eau, c'est d'abord l'eau, c'est la santé, l'éducation, la formation. Et par la suite, éventuellement, maintenant, depuis quelques années, quand on peut le faire, l'électrification de ces villages. Alors l'eau, nous avons rencontré les responsables des villages, les chefs de village, les éventuels préfets ou hauts commissaires ou gouverneurs, appelons ça comme on veut selon les pays, et nous avons établi leurs besoins, je répète, sont toujours les mêmes dans l'ordre des urgences, et nous budgétisons ensemble ces besoins. Et notre rôle consiste, nous, à trouver cet argent, retour ici en Occident, en Europe et ailleurs, et ensuite de créer, de monter, de travailler, de construire avec des partenaires que nous avons sur place. Je le dis tout de suite, ce sont les partenaires sur place, sont les Pères Blancs. Nous travaillons beaucoup avec les Pères Blancs, les missions des Pères Blancs. Et c'est le Lions Club International. Le hasard veut que je sois membre du Lions Club International. J'ai donc mis notre association dans le coup. Ils l'ont accepté et nous aident. Voilà. Alors
la grande originalité de votre association, c'est précisément de garder les gens sur place.
Voilà. Alors notre but, et nous le disons officiellement, nous le mettons dans toute notre documentation, la haute administration des pays où nous travaillons, les pays du Sahel, nous le savons, nous le disons, ils le savent et ils nous aident dans ce sens, c'est de faire de tout ce qui est possible pour resédentariser les autochtones, en principalement les jeunes générations. Alors très rapidement, je vais vous donner un petit chiffre qui a la fiabilité africaine. Enfin bon, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, 20 ans, 21 ans à peu près, nous avons commencé à travailler dans les régions du Mali et du Burkina, où le taux d'émigration se situait entre 10 et 12%.
Dans ces zones-là, oui.
Oui, dans ces zones-là. Ces mêmes zones, aujourd'hui, après 20 ans de travail, et nous sommes rien, nous sommes une petite aiguille dans la meule de foin, je vous citerai des chiffres après. Aujourd'hui, nous avons réussi, dans ces zones-là, à réduire, d'après les statistiques à l'africaine, disons, mais quand même, nous avons réussi à réduire ces taux d'émigration, surtout chez les jeunes, à 1, 2, voire 2%. Donc, dans ces régions-là, je vous citerai les régions ensuite, nous avons un certain succès. Et nous le disons, nous allons là-bas pour aider ces gens, non pas pour les moderniser de telle façon qu'ils viennent ici, comme vous le disiez justement, Bernard, mais pour qu'ils restent chez eux. Nous leur permettons, nous faisons tout ce qui est possible pour leur permettre une vie meilleure. C'est l'eau, je le répète, c'est l'eau, c'est la santé, c'est l'école, c'est la formation.
Pratiquement, un type de projet.
Eh bien, je vais vous citer un type de projet que nous avons.
Pardon. Le pays, la zone. Le
oui. Projet. Alors, d'abord, une petite parenthèse, si vous le permettez, pour nos auditeurs, le Sahel est cette région subsaharienne qui va de l'océan Atlantique vers l'est jusqu'au Soudan. C'est-à-dire, dans l'ordre de l'ouest à l'est, il y a le sud mauritanien, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, et le nord des pays Cameroun, Togo et Bénin. C'est là où nous travaillons.
Vous travaillez jusqu'au Bénin ?
Nous allons au nord Bénin.
Ah oui.
Nord Bénin, nord Togo et nord Cameroun. Donc on peut pas tout faire. Hein. Bon. Alors, nous travaillons dans ces régions-là. Alors, à votre question, je vais répondre. Nous avons, il y a 17 ans, contacté un village important dans le Mali. Au Mali, au sud-ouest de Bamako, près de la frontière guinéenne. Ce village avait rien. Il manquait d'eau, il y avait absolument rien, il manquait de tout. Bon, nous avons budgétisé, nous avons mis au point les besoins de ce gros... Quand je dis village, c'est une bourgade, le village en lui, en tant que tel, a déjà 4-5 000 habitants, et il y a plein de hameaux environnants qui se raccrochent à ce village. Je pense qu'ils étaient 7 à 8 000 habitants. Nous avons créé en 17 ans, j'abrège, nous avons foré 7 forages, nous avons mis au point 7 forages, dont 4 profonds pour de l'eau potable. 3 en nappe superficielle pour les irrigations, qui sont des eaux d'infiltration du fleuve Niger qui n'est pas très loin, et 4 forages profonds en eau potable. Nous avons créé un centre de santé important avec formation d'un infirmier, d'une matrone, enfin d'une sage-femme. Nous avons créé, avec l'aide d'une autre ONG en Touraine, ensemble, une grande école, avec 7 ou 8 classes, ou 9 classes même, oui. Et ensuite, nous avons également formé un ingénieur agronome.
Et le financement ? Qui gère le financement ?
Alors, je vais vous en parler. Alors, c'était pour répondre à votre question, que faisons-nous ? Alors ça, c'est l'exemple type, et nous restons dans ce village le temps qu'il faut. Et actuellement, nous avons 17 chantiers. Alors, à travers le Sahel.
De la Mauritanie?
Oui, actuellement, c'est Mauritanie, nous avons arrêté, nous avions un chantier dans le sud de la Mauritanie, nous avons arrêté, maintenant nous avons un chantier au Sénégal, nous en avons plusieurs au Mali, importants, et plusieurs au Burkina, un au Niger qui va commencer là, en fin d'année 2004, et nous en avons un en cours actuellement au Tchad, qui est un centre de santé très important au Tchad. Alors, bien sûr, le financement, c'est le nerf de la guerre. Alors, financement, Notre travail consiste, la modeste équipe que nous sommes, que je dirige, consiste à aller chercher de l'argent toute l'année, là où nous en trouvons. Je dois dire, le Lions Club International nous aide, mais il nous aide, il n'est pas seul. Nous sommes actuellement en discussion et nous sommes reconnus à Bruxelles. Nous avons déposé à Bruxelles et au mois de mars de cette année un important dossier qui est en cours d'étude. Ça prend du temps parce que Bruxelles, entre-temps, bon, ont reçu d'autres dossiers qui priment compte tenu des pays de l'Est qui vont rentrer chez nous. Enfin, le dossier est en cours. Nous avons un dossier en cours à la coopération et nous avons toute une série de donateurs, de sponsors, de mécènes qui nous aident.
Et la question que je voulais vous poser, qui gère cet argent? Vous ne donnez rien sur place.
C'est non. Alors, tout. Oui, c'était votre question. Cet argent-là, je prends un exemple type. Dans un village, par exemple, nous avons reconstruit, réhabilité un hôpital au Burkina Faso depuis 6 ans. Ce sont nos partenaires que nous avons sur place, c'est-à-dire les Lions Club ou les Pères Blancs, qui gèrent cet argent. Nous lâchons, entre guillemets, cet argent qu'au fur et à mesure des factures qui nous sont envoyées et que nous contrôlons. Nous avons nos propres équipes sur place, je répète toujours, les Lions et les Pères Blancs, qui nous donnent le feu vert. Et nous y allons nous-mêmes. 2 fois par an, nous allons vérifier sur place et nos chantiers. Nous contrôlons l'étape des chantiers et nous contrôlons les factures et nous travaillons comme ça.
Donc il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de trafic.
Il n'y a absolument aucun gaspillage. Pour vous dire, nous avons été la première année, nous avons été... excusez le terme, mais nous avons été roulés la première année, on s'est fait avoir parce que nous avons eu le tort de faire confiance, je ne cite personne, et bon,
terminé.
Mal nous en est pris. Terminé. On a dit, bon, nous mettons nos équipes, ce sont elles qui contrôlent, et les feux verts viennent de ces équipes, Pères Blancs.
Précisément, quelle aide les Pères Blancs peuvent-ils vous apporter, pratiquement?
Pères Blancs est un partenaire important, les Pères Blancs sont importants parce que ce sont eux qui, par exemple, au Mali, gèrent l'éducation hors Bamako. Nous avons actuellement 2 très gros projets à Mopti.
Dans un pays musulman, hein?
Oui. Dans un pays musulman, à majorité musulmane. Il y a moins de 10% de chrétiens au Mali. Et nous gérons actuellement, nous avons accepté, sur la proposition de nos amis Pères Blancs, de les aider à la construction de très grandes écoles. Il y a en tout plus de 50 ou 60 classes à Caille et à Mopti. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet, mais disons, nous sommes en train de rechercher les finances pour cela. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes le principal, entre guillemets, financier à aider les Pères Blancs. Alors, il est bien évident que lorsque nous allons commencer ces travaux, lorsque les Pères Blancs vont commencer ces travaux, bon, ils auront notre argent, mais nous vérifierons, nous contrôlons sur place avec eux de l'évolution des travaux et nous le faisons dans ce sens-là. Pour les hôpitaux ou les centres de santé, ça se passe de la même façon. Pour les forages, de la même façon. Et je répète à nouveau que dans les villages, les bourgades où nous travaillons, eh bien les gens se sédentarisent, restent sur place, et c'est ce que nous voulons. Et nous sommes aidés en cela, non pas seulement par nos amis ambassadeurs des pays du Sahel ici à Paris, mais nous sommes aidés par la plus haute administration sur place, les ministres, et voire les présidents des différentes républiques, qui nous ont reçus d'ailleurs, qui nous reçoivent officiellement.
Donc une ONG tout à fait originale qui mérite l'intérêt des auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, Albert Hylaine, nous allons en terminer là. Maintenant, ce qui est important, c'est si l'on veut prendre contact avec votre ONG, Action Sahel, si l'on veut prendre contact avec vous, si l'on veut vous aider d'une manière ou d'une autre, comment fait-on?
Eh bien, écoutez, le mieux, c'est de nous contacter. Notre adresse est ici, dans la région parisienne. Nous sommes au 24 avenue de l'Europe, à Marly-le-Roi, 78-160.
Répétez, s'il vous plaît.
Alors, 24 avenue de l'Europe.
24 avenue de l'Europe.
78-160, Marly-le-Roi. Téléphone, je le dis rapidement, 01 39 58 09 70. Et nous avons un mail également. ActSahel, ACTSAHEL@AOL.com.
Nous répéterons cette adresse dans le cours de l'émission, Victoria, avec les annonces dans un petit moment. Eh bien, Albert Hylaine, merci. Bon courage. Quel est votre prochain voyage?
Eh bien, écoutez, nous préparons actuellement une mission de contrôle et de vérification de tous nos chantiers au travers tout le Sahel. Comme nous sommes pilotes, nous louons un avion. Un avion intéressant, un avion d'affaires, mais qui est bien équipé. Et en 15 jours, nous visitons la totalité de nos chantiers sur les 6 pays cités où on nous attend, nous sommes reçus, on ne perd pas de temps et ça paraît très cher au départ, mais c'est, nous prenons que 15 jours au lieu de 3 mois ou 4 mois avec les 4x4 à travers les pistes, etc.
Oui, l'efficacité.
Oui, l'efficacité.
J'essaierai de venir 2-3 jours avec vous.
Oui, ça serait très sympa, je vous l'ai proposé.
Albert, merci.
Je vous en prie, merci Bernard, merci à vous messieurs, madame.
Voilà, voilà. Et bonne chance.
Merci.
Et c'est une action qu'il faut parfaitement saluer, d'autant plus que l'aspect critique que nous pourrons avoir lorsque nous parlons des ONG est bien connu. Là, nous avons affaire à une association qui est une association intelligente et qui est parfaitement dans la ligne de ce qu'il faut faire. Merci Albert.
De nonni a garon le rondain on a dain on a dain nos a dei on o sir vo dain rag se son germe se disen ma mignon se willer son in each de nonni a
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors nous sommes avec Dominique Vénère et avec Philippe Conrad, et nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Jean Mabir.
Le plaisir est pour moi.
Jean Mabir, qui pour les hommes de ma génération représente un éveilleur. Jean Mabir, Dominique Vénère, vous êtes les parmi les éveilleurs de notre génération. C'est à vous, c'est en vous lisant, en vous fréquentant, en vous côtoyant que l'aspect rebelle qui dormait en nous s'est un petit peu enraciné, s'est solidifié, s'est, j'allais dire, a pris de l'épaisseur et de la doctrine. Donc c'est avec une grande émotion que je salue ici la présence de Jean Mabir, qui est un homme qui compte énormément pour nous. Je crois que Philippe Conrad.
Oui, Jean, qui est un ami de 40 ans, donc, et que j'ai découvert à peu près au même âge que toi, mon cher Bernard, en lisant ses articles dans l'Esprit Public, dont nous parlerons tout à l'heure.
Ce qui nous ramène à
l'Algérie. Et qui a joué effectivement pour moi un rôle de guide, un rôle d'éveilleur considérable.
Bien. Alors, restons-en là, parce que nous sommes des hommes sobres, mais nous avons tout dit.
Et là, je commence à rougir. Hein.
Alors, Jean, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Le prétexte, il faut un prétexte. La sortie de votre livre, des poètes normands et de l'héritage nordique. Mais c'est pas pour parler de poésie qu'on vous a demandé de venir. C'est pas pour parler de poésie. Dans la mesure où, en quatrième de couverture de ce livre, tout est résumé, beaucoup de choses. Pardon, je lis en quatrième de couverture de ce livre, des poètes normands et de l'héritage nordique. Ils furent nombreux, les poètes normands qui célébrèrent les Vikings. De leurs vers devait naître ce que l'on a appelé le mythe nordique, c'est-à-dire non pas une fantasmagorie, mais la prise de conscience d'une réalité identitaire, originale entre toutes. Alors, Jean Mabir, quelle est l'originalité de cette identité ?
Elle remonte à un millier d'années, même un peu plus, c'est-à-dire 911, fondation de la Normandie par Norvégien Rolf le Marcheur, et brusquement un pays qui existait déjà avant, ils sont pas arrivés dans un désert, mais va prendre conscience de lui-même sous la poigne des ducs, poigne qui est pas toujours d'ailleurs très facile, parce que fallait quand même, après avoir détruit un nord, il fallait en rebâtir un autre, et voilà, une Normandie qui commence et qui va laisser sa trace dans l'histoire. Bien entendu, lorsque les Normands doivent se référer à un mythe fondateur, c'est celui-là qu'ils choisissent. Ça ne veut pas dire que les Vikings ont été seuls, qu'il n'y a qu'eux. Il ne faut pas tomber dans la ce que j'appellerais en souriant la vikingomanie. Mais il est certain qu'ils ont été le déclic et que c'est là où, pour nous, tout a commencé.
Dominique Vénère.
Jean Mabir, a-t-on une idée de la proportion qui était celle de la population d'origine scandinave?
Non, justement, et c'est ça qui constitue. Non, ça pose une question, c'est ça qui constitue un mystère, mais rien n'est plus intéressant que les mystères. Il y a des gens qui ont dit que c'était tellement faible que les Normands d'aujourd'hui étaient apparentés, je dirais, ethniquement à des Méditerranéens graciles. Ça a été dit, ça a été écrit, même par des gens fort compétents par ailleurs en histoire.
Donc, si tu me permets, Jean, tu le sais que je vis en Normandie depuis un certain nombre d'années. Chez les Normands de souche, j'ai rarement vu des Méditerranéens graciles.
Oui, mais il y a eu un article de la revue L'Histoire, tout à fait intéressant à ce sujet-là, en disant que tout ce qui était viking était fantasmagorie. Bon, ce qui est important, c'est qu'ils sont pas arrivés dans un pays désert, qu'avant eux, il y a eu différentes invasions. Il y a eu des Celtes, bien entendu. Il y a eu des Francs, et les Francs ont joué un rôle important, surtout au nord de la Seine. Il y a eu des Saxons qui sont d'ailleurs totalement ou presque totalement oubliés. Mais pendant très longtemps, les rivages de Normandie ont été, enfin, de la future Normandie, ont été l'objet de raids saxons. On voit d'ailleurs quand on va dans le pays, dans le Schleswig, on voit une barque saxonne qui est là. Au fond, c'est un pré drakkar, ou plutôt un pré snekkar, puisque le mot drakkar n'est pas un mot correct. Et on voit très bien que les Saxons ont été les premiers envahisseurs. Il y a eu normalement des, probablement aussi des Frisons. Donc il y a eu tout un monde germanique du nord, germanique de la mer, qui a touché la future Normandie. Les Vikings, en quelque sorte, ont été, je dirais, la cerise sur le gâteau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'ils ne venaient pas directement, ces fameux Vikings. Ils arrivaient en général soit d'Angleterre, où ils avaient fait un certain séjour, de la région du York, soit par notre coin, venant d'Irlande, ce qu'on appelle, c'est en général des Norvégiens, ce pourquoi on les appelle les Iro-Norvégiens. Alors, tu me posais la question du nombre. Ce nombre a, je dirais, toujours été minimisé, et en disant que si les Normands, ou beaucoup de Normands avaient un type nordique, c'était pas à cause des Vikings, c'était à cause des Celtes, à cause des Francs, à cause des Saxons, à cause des Frisons, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une chose.
Ce sont des peuples frères.
Ce sont des peuples frères. Mais une chose qui est importante, c'est qu'on va, pour peu qu'on s'y attache, découvrir une toponymie. Alors là, on rentre dans un tout à fait spécial, et que la toponymie en Normandie, enfin dans certaines parties, notamment dans le Pays de Caux, notamment dans le Cotentin, est extrêmement révélatrice. C'est qu'on trouve des noms de lieux d'origine indiscutablement scandinave donnés aux plus faibles parcelles de terrain, à de simples écarts, à des champs, à des chemins. Enfin, c'est absolument extraordinaire, la densité de toponymes d'origine scandinave. Alors, il a bien fallu que quelqu'un les amène. Par contre, il faut reconnaître que archéologiquement, c'est extrêmement faible. On a trouvé une ou deux épées dans la Seine, et s'il y a des runes en Normandie, c'est parce que c'est dans le coffret de Mortain, mais le coffret de Mortain est d'origine anglaise, et par conséquent, n'a pas été créé en Normandie. C'est la Normandie qui le conserve. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de pierre runique en Normandie, sauf celle qu'on a faite récemment pour le monument à Fernand le Chanteur. C'est le seul monument à écriture runique que nous possédions en Normandie.
Et dans la langue ?
Dans la langue, il y a également des traces. Dans la langue, ce qu'on appelle la langue normande, le patois, le dialecte, le lossé, qu'on lui donne le nom qu'on veut, il y a effectivement un certain nombre de mots d'origine scandinave qui sont dans une proportion que je ne pourrais pas donner, mais qui sont quand même importants, mais qui ne constituent pas la totalité. La langue populaire normande n'est pas une langue scandinave, malgré le grand nombre de mots. Maintenant, un grand nombre de mots sont passés dans la langue française courante, ont quitté, si je peux dire, le patois pour rentrer dans la langue maritime. Et alors là, il y a tout un des études qui ont été faites, et la langue maritime française comporte énormément de mots d'origine scandinave.
Ils sont entrés donc par le normand.
Ils sont entrés par le normand et par des marins normands qui les ont amenés, et c'est tout à fait. Alors là, il y en a des listes impressionnantes.
Reste-t-il aujourd'hui dans l'esprit du normand moyen entre guillemets une idée de ces mythes ou de ces réalités?
Alors, l'idée qu'on voit, la première idée quand on se promène en Normandie, qu'on arrive dans la moindre ville et qu'on voit le cinéma, les cafés,
ça s'appelle
le drakkar. Alors là, bon, il faut croire qu'ils ont choisi ce nom-là pour une raison. La boîte de nuit s'appelle le drakkar. Alors évidemment, le professeur Boyer vous dirait que c'est une impropriété, qu'on ne doit pas parler de drakkar, qu'on doit parler de snekkar. Je connais d'ailleurs assez peu de cinéma ou de boîte de nuit s'appelant snekkar, mais ça pourra peut-être venir quand on aura fait les corrections nécessaires. Partout, on voit la trace de drakkar. Le cinéma de Coutances s'appelle le drakkar, c'est une chose absolument normale. Et dès qu'une marque normande veut se singulariser, que ce soit pour vendre du beurre ou n'importe quoi, ils se prennent. Moi, mes amis qui vendaient des appareils frigorifiques, ça s'appelait Snorri. Enfin, ils choisissent toujours des noms scandinaves, et ça va plutôt en augmentant.
Dominique Vénère.
Oui.
J'ai le souvenir, Jean, d'un très joli petit emblème qui était posé sur les voitures, qui représentait un N, mais ce N était formée par une voile stylisée d'un drakkar. Et tu vas corriger ce que je dis si je me trompe. Je me suis laissé dire que le créateur de ce N se trouve ici même et représenté par toi. Est-ce
Oui, enfin pas tout à fait. Faut rétablir la vérité historique.
Voilà, mais nous sommes.
Eh bien, le N est une idée de Pierre Godefroy. Le N au-dessus de l'Esnec.
Pour rappeler qui est Pierre Godefroy.
Pierre Godefroy était un journaliste agricole à la Presse de la Manche, hein, mais très bons amis. On était journalistes ensemble dans le même journal, très porté sur les Vikings au point d'avoir épousé une Danoise et qui a beaucoup fait pour la Normandie. Il a eu une carrière politique, il est un gaulliste à partir de 1958 et il a été député, conseiller général, conseiller régional, maire de Valogne. Enfin, je ne crois qu'il n'y a pas de poste politique qui n'est pas occupé. Mais il les a occupés toujours avec l'idée de servir la Normandie. Et il a créé une association qu'il a appelée l'Union pour la région normande au moment où il y avait ce projet gaulliste de régionalisation et il voulait que la Normandie, à cette occasion-là, soit réunifiée. C'est un peu ce que veut faire en ce moment un député comme Hervé Morin. Et là, Godefroy était précurseur, a réuni un certain nombre d'amis, il s'agissait de trouver un emblème. Et l'emblème était de faire un bateau qui faisait le U, l'Union, et le Normandie étant la voile qui était en forme de N. Ça a eu beaucoup de succès et le dessin a été fait par moi et surtout par mon fils Alvard, qui était très content, il était à ce moment-là très jeune, et je pense que c'était pour lui une grande fierté d'avoir fait ce signe qui est devenu un autocollant pour voiture. Alors cet autocollant a eu a attiré un très grand nombre d'exemplaires, a eu un certain succès, mais c'est comme tout. C'était à peu près au moment du BZH d'ailleurs en Bretagne, qui aurait eu également du succès. Mais comme le succès, ça ne dure pas, il y a eu un fait d'actualité, dirons-nous. Et il y a eu également, ça c'est intéressant, un grand nombre de contrefaçons. Et nous avons fait des procès et on a arrêté d'en faire parce qu'à l'inverse de Bernard Lugan, on les a toujours perdus.
Je vous donne un nom d'avocat, si vous voulez mon avocat, Valérand Saint-Just, qui m'a gagné tous mes procès.
Bon, et ben maintenant, on n'a pas, le semaine est encore porté sur un grand nombre de voitures, mais enfin, on peut pas dire qu'il a eu le succès qu'il a eu au début, c'est devenu, disons le mot, c'est devenu un gadget.
Eh bien, Jean, je le portais au Rwanda sur ma Land Rover, le N de Normandie.
Parfait.
Au milieu de la savane et des buffles, tu vois, les Vikings allaient jusque dans les espaces lointains. L'univers est le même sous des cieux différents.
Rien ne les arrête.
Rien ne les arrête. Dominique voulait poser une question à Jean, je crois.
Ben, moi, je voulais... Je voulais amplifier ce qui était dit tout à l'heure concernant Jean Mabir, parce qu'effectivement tout le monde le connaît et tous les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent Jean Mabir. Mais peut-être ne connaissent-ils pas tous les aspects de Jean Mabir.
Nous sommes là pour
et
ça.
Voilà, nous sommes là pour ça. Parce que Jean Mabir a publié, je crois, une centaine de livres, à peu près.
Une centaine, à peu près.
Voilà.
Le fait que quand il y a des rééditions, avec des nouvelles couvertures, avec des corrections, est-ce un nouveau livre ou pas un nouveau livre? Ne discutons pas.
Une centaine.
Une grosse centaine, 120, comme disaient les anciens, qui appelaient ça une longue centaine.
Ouais, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Et parmi ces 100 livres, eh bien, c'est un écrivain multiple. Qui s'est manifesté, qui s'est exprimé, et certains connaissent toute l'œuvre de Jean Mabir, d'autres n'en connaissent qu'une partie. Par exemple, l'écrivain de l'enracinement normand, ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Bernard Lugan, l'écrivain de récits de guerre, l'écrivain de la mer, l'auteur d'essais politiques ou métapolitiques plutôt, le critique littéraire, auteur d'une encyclopédie des écrivains contemporains du XXe siècle surtout, encyclopédie qui est sans équivalent, nous y reviendrons tout à l'heure, parce que c'est une part très importante de ton œuvre. Et cet écrivain ne s'est pas contenté d'écrire beaucoup de livres, très différents, il a créé un style. Il y a incontestablement un style Mabir. Moi qui suis un très ancien lecteur de Jean Mabir, sous toutes les formes, livres, articles, etc., je le reconnais, je crois, sans faille, lorsque un texte sans signature arrive entre mes mains. Je dis, ça, c'est Jean. Et ce style, alors, comme tous les styles, il est difficile de les définir ainsi en deux mots. Il faut surtout le goûter et le découvrir. C'est en tout cas le style d'un grand conteur. C'est un grand conteur qui, en trois lignes, sait suggérer une atmosphère, un personnage, un tempérament, et surtout sait suggérer la vérité d'une atmosphère, d'une certaine situation, d'un personnage, etc. Et ça, c'est la marque du véritable écrivain. Que ce soit l'évocation d'un bateau sur une mer déchaînée, de combats par moins 40 degrés devant Moscou, ou l'univers intérieur d'un écrivain, tout cela est présent et exprimé avec force. Mais je pense qu'il peut être intéressant pour les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est d'évoquer de façon chronologique l'itinéraire intellectuel qui était celui de Jean Mabille. Alors très succinctement et naturellement, tu interviendras pour rétablir ou démentir les interprétations éventuellement fallacieuses, qui auraient été les miennes, ou apporter des compléments. Naissance à Paris en 1927, mais dans une famille normande.
De père.
De père. Et j'imagine que cette famille normande paternelle a dû jouer un rôle pour que ce petit Parisien, un jour, comment, alors ça tu peux peut-être nous le dire en deux mots, pour que ce petit Parisien ait envie de reprendre ses racines normandes.
Oui, j'en ai pas eu conscience au départ, pour différentes raisons, mais j'ai eu la chance d'avoir une enfance normande, la période la plus intéressante pour un enfant, bien entendu, c'est les vacances, c'est pas la scolarité. Et donc j'ai eu des vacances normandes pendant toute ma jeunesse, dans deux endroits complètement différents, venant d'ailleurs d'un côté de ma famille paternelle normande, qui avait, mon grand-père avait acheté un moulin sur la Rille, tout près de la Baronnouche, tout à fait dans le pays de la Varande. Nous étions voisins de la Varande, à quelques kilomètres de la Varande, que j'ai commencé à connaître très jeune, parce qu'on en parlait un petit peu. C'était l'écrivain célèbre du coin.
C'était la grande époque de la Varande.
La grande époque de la Varande. C'est l'époque où il commençait à être connu, mais il commençait bien. Il commençait par Nez de cuir, il commençait par Le Centaure de Dieu, il commençait par ses plus grands livres. Et là, moi je ne l'ai pas du tout rencontré à ce moment-là, mais on était dans son pays, on vivait au rythme de la Rille, avec puis le boulin, à un moment on ouvrait le bief, on ouvrait les vannes, et on avait de l'électricité uniquement par le moulin. Il n'y avait pas d'électricité, elle ne venait pas d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui la fabriquions. Il y avait une salle qui ressemblait à la salle des machines dans le sous-marin de 20 milieux sous les mers. Ça me fascinait absolument. Alors ça, c'est la partie pays douche. Et par ailleurs, mon grand-père Sévenol, pour des raisons que j'ignore, avait acheté, parce qu'il est mort très tôt, il est mort, j'avais 2 ou 3 ans, j'ai très peu de souvenirs de lui. Et avait fait, de pas acheter, il a fait construire une villa entre Blonville et Villers-sur-Mer, j'étais son premier petit-fils, j'étais un garçon à l'époque souriant, et il a appelé ça Jean qui rit, avec une orthographe.
Tu es toujours un garçon et tu es toujours souriant.
Voilà. Et alors ça a été une autre partie de mon enfance normande, où j'étais sur la côte, la fameuse côte où quand on regarde le large, enfin, on voit tout de suite le Havre, et on dit si on voit le Havre, eh bien c'est signe qu'il va pleuvoir, et si on ne voit pas le Havre, c'est signe qu'il pleut. Et donc j'ai eu une enfance, je ne dirais pas d'Auvillaise, je ne faisais pas partie du 21e arrondissement de Paris, mais une enfance très proche de Trouville, où j'allais souvent avec ma grand-mère, on allait à pied jusqu'à Trouville, je vais aller voir les bateaux de pêche, on voyait les pêcheurs qui venaient, et tout petit, j'avais 5-6 ans, je tirais, et c'était la pêche où il y a deux cordes qui arrivent sur le rivage tenant le filet, et j'allais tirer avec les pêcheurs le filet, et pour me récompenser de mes efforts, qui étaient d'ailleurs évidemment assez faibles, j'avais droit à un poisson. C'était pas un poisson énorme, mais je ramenais triomphalement le poisson à la maison. Donc ça, c'est la partie qui a baigné mon enfance sans que je ne m'en rende compte. Je me suis rendu compte de ma normanité, ou normanditude, comme disait le président Senghor, beaucoup plus tard, après la guerre. C'est après la guerre où la guerre n'était d'ailleurs pas finie, où je suis parti volontairement pour participer à la reconstruction du Havre. Le Havre, il n'en restait rien, c'était comme Brest, dont il ne reste rien, le Havre c'était rien, je suis arrivé dans une gare, j'étais à ce moment-là étudiant, j'étais volontaire pour travailler la reconstruction, et il y avait rien, il y avait une plaine hérissée de tas de cailloux, ce qui avait été une ville autrefois, et on logeait à Graville, et le travail était, c'était pas un travail très fatigant ni très intelligent, on récupérait des briques qui étaient encore pleines de mortier, et avec un petit marteau, on détachait le mortier de façon à récupérer ces briques pour faire des logements provisoires. Donc c'est
par les bombardements anglais ou américains
bombardement après la guerre, le fameux bombardement du Havre.
De septembre 44.
Septembre 44. Et moi, je suis arrivé en 45, à l'été 45, en vacances, et j'ai passé plusieurs semaines au Havre à travailler, et là, j'ai découvert la Normandie comme un pays complètement ravagé, meurtri, et je me suis dit, ça a été ma première réaction sur la Normandie, en disant, mais voilà un pays qu'on va reconstruire, forcément, on reconstruit toujours, il y aura à nouveau des gens, comme disait mon ami l'abbé Légard, les bâtiments détruits, on les reconstruit, des gens, il y en a d'autres qui viennent, la seule chose qu'on ne peut pas retrouver, c'est les archives. Et ça m'a paru une réflexion par la suite, d'ailleurs, je pense que c'est très intéressante. Et je me suis dit, les gens qui vont vivre là, qui ont tout perdu, qui vont être privés en quelque sorte de leur héritage, de leurs ancêtres, de leur identité, et il faudrait qu'ils aient quelque chose qu'ils aient en commun, qu'ils aient une identité nouvelle et qui corresponde à la reconstruction. Et j'ai eu cette idée quand j'étais à l'école des métiers d'art, d'une espèce de reconstruction morale de la Normandie qui m'a donné une idée normande, mais qui m'est venue non pas pour être né en Normandie, non pas pour y avoir passé toute ma jeunesse, non pas pour y avoir été à l'école, heureusement, je donnerai que de mauvais souvenirs, et qui m'a donné l'idée de faire quelque chose pour créer un état d'esprit en Normandie. Voilà en quelque sorte ma réponse.
Et alors, cette volonté de créer quelque chose pour la Normandie va se concrétiser en 1949, par la fondation d'une revue qui est tout à fait extraordinaire. Cette revue porte le nom de Viking, avec comme sous-titre « Cahier de la jeunesse des pays normands ». L'aventure de cette petite revue, petite par la diffusion, la forme technique, mais grande par l'influence et la qualité, cette revue va se poursuivre, ou son existence va se poursuivre jusqu'en 1958, je crois. C'est une revue qui a été faite, qui a été réalisée par toi en très grande partie, avec naturellement des collaborateurs extérieurs, tu vas nous en parler, mais l'une des particularités de cette revue, c'est que tout son graphisme était conçu, réalisé par toi-même. Ou par une toute petite équipe.
D'abord par moi-même, et puis très vite par ma première épouse, qui était aussi à l'école des métiers d'art et qui m'a donné un coup de main, notamment lorsque j'étais appelé au service militaire. Pendant un an, c'est elle qui a pris la charge de la revue au point de vue illustration, au point de vue matériel.
Alors l'illustration est tout à fait étonnante, puisque elle était faite avec les moyens de l'époque qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. C'est une revue qui était renéotypée, je crois.
Qui était renéotypée et
imprimée ultérieurement.
Oui, d'abord, ça a été renéotypé, on travaillait sur des stencils, ouais, avec des baudruches, enfin, c'était tout un truc extrêmement artisanal. Il me rappelait toujours un jour, le stencil avait craqué, on l'avait réparé comme on avait pu avec des agrafes, et on l'avait remonté à l'envers. Si bien qu'on voyait la page comme si elle était vue dans une glace, et on tournait la machine, et un de mes amis disait, on continue, ça va s'arranger. Mais ça ne s'est jamais arrangé, il a quand même fallu arrêter l'expérience à un moment. Alors, il faut dire que la revue attirait au début, j'étais très ambitieux, je me suis dit on va quand même peut-être en vendre quelques numéros, on a commencé à tirer à 200. Ce qui est quand même relativement modeste, mais c'était dur à vendre les 200 premiers. Et puis après, on a augmenté, et à la fin, on tirait à 2 ou 3000, et notre but était d'avoir 500 abonnés, et on y est presque arrivé. On est arrivé en gros à 450 abonnés, avec une grosse vente en librairie, et là où on a eu des problèmes, on est obligé d'arrêter, c'est qu'on a essayé d'avoir une diffusion normale, on l'a fait imprimer, tout en ayant toujours des dessins, mais à ce moment-là, il y a eu un problème, c'est qu'on est passé par les NMPP, c'est-à-dire la diffusion normale des revues, et on a eu un bouillon qui nous a absolument tués, on n'était pas du tout fait pour gérer une revue, je dirais, normale. Alors, je voudrais tout de suite dire que j'étais seul au début, quand j'ai créé la revue, j'avais été tout seul, mais très vite, il y a eu du monde, très vite, il y a eu une équipe de 15-20 personnes autour de moi, qui a été sous la houlette du marquis de Saint-Pierre, qui est le père de Michel de Saint-Pierre, qui est un grand historien, un ami de Lavarande,
qui a patronné
la revue. Ouais. C'est pas, Lavarande ne l'a pas patronné, il a pris un abonnement, ce qui est déjà pas mal, mais enfin, il n'a pas été au-delà, alors que Louis de Saint-Pierre nous a donné des articles, et c'est lui qui nous a fait visiter. Un jour, il y avait une exposition viking à Paris, et on avait demandé à ceux de nos lecteurs qui s'intéressaient de venir. On a fait la visite guidée par le marquis, qui était à l'époque déjà un vieux monsieur, et qui nous a mimé d'une manière absolument extraordinaire comment se passaient les combats vikings, avec d'une main le bouclier et d'autre main l'épée. Enfin, on doit beaucoup au marquis de Saint-Pierre, et très vite, la revue qui était au début uniquement consacrée aux vikings, à l'héritage scandinave, très rapidement s'est intéressée à l'ensemble de la Normandie, et on a abordé des sujets historiques, économiques, voire politiques. On n'a pas du tout resté à faire uniquement une revue, disons, d'héritage nordique. Ça a été une partie qui n'a jamais cessé, mais qui a de plus en plus pris sa place dans un ensemble. Et pendant 5-6 ans, on a quand même été la revue de la Normandie avant qu'il y en ait d'autres. Mais avec des moyens qui ont toujours été extrêmement pauvres. Moi, j'habitais à ce moment-là à Cherbourg, et je vivais dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce que je dis toujours, l'unité de déplacement de la revue était la bicyclette, et tout était au même... Le rédacteur en chef était la bicyclette, et tout était au même niveau, c'est-à-dire que la vie était très difficile, et ça ne pouvait pas durer pour différentes raisons. Ça a duré une dizaine d'années, ce qui n'est pas tellement mal, et beaucoup de revues ne durent pas aussi longtemps.
C'est joli. Alors, nous reviendrons immédiatement après pour suivre l'ordre chronologique, mais y a-t-il un lien, à mon avis il y en a un, y a-t-il un lien entre cette aventure de Viking et la création ultérieure du mouvement normand ?
Oui, c'était tout à fait normal. Nous sommes pas arrivés dans un désert. Quand Viking est arrivé, il y avait déjà des gens qui s'intéressaient à la Normandie. Il y avait déjà des associations, des groupes, etc., qui se sont agglomérés plus ou moins facilement. Ça n'a pas toujours été facile autour de Viking, notamment grâce à la personnalité de Fernand le chanteur qui a fait le lien avec ce qui existait déjà en Normandie. Et puis quand Viking a disparu, il y a eu la revue Heimdall, créée par Georges Bernage, et dès 1968, il y a eu le mouvement normand. Tout ça procédait d'un même esprit et récupérait les mêmes gens. Les premiers adhérents du mouvement normand ont été les anciens lecteurs et collaborateurs de Viking. Simplement, ils avaient 20 ans de plus.
Et
je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, et nous avons pour invité Jean Mabir. Dominique Vénère, à vous.
Jean Mabir. Entre 1949, fondation de Viking, et 1968, fondation du mouvement normand, pour celui qui avait vécu ça de l'intérieur, y a-t-il une sorte de cristallisation, début de cristallisation de l'idée normande
de... Oui, c'est-à-dire que le mouvement normand a été créé peu après 1968. Il n'y a pas de lien direct, mais enfin, c'est en gros cette époque-là, 69-70, sous l'action. Bah, Pierre Godefroy, dont je parlais tout à l'heure, a été un des premiers collaborateurs de Viking et un des, disons, c'était l'un des piliers de l'équipe. Donc il y a une suite logique. Mais nous avions, nous, une vision extrêmement culturelle, je dirais métapolitique,
à Viking.
Et le mouvement normand, lui, a d'emblée pris une position politique et une position économique. Et c'était, disons, une évolution qui correspondait à des tempéraments très différents. Mon ami Didier Pat, beaucoup plus jeune que moi, est à l'heure actuelle membre du Conseil économique et social, et c'est ce qui situe déjà une manière d'aborder les choses. Alors que moi, j'étais un simple, même pas un artiste, j'étais un artisan.
Alors, nous allons toujours rester en Normandie parce que dans ton itinéraire intellectuel et professionnel, il y a une page très importante de l'automne 1956, je crois, à l'été 1963, c'est précis. Hein, mm-hmm. Tu es journaliste au quotidien La Presse de la Manche.
Voilà.
Et tu vas nous en parler, mais je crois savoir que, bon, d'abord, tu as appris le métier sur le tas, et c'est une rude école que celle d'un quotidien régional, surtout quand on doit tout faire, critique de cinéma, suivre l'élection de Miss Cherbourg, les reportages en mer.
Ce qui est déjà des choses supérieures,
etc. Et dans un roman récemment publié, dont tu vas rappeler le titre tout de suite. L'aquarium aux nouvelles. Tu as évoqué la vie de ce quotidien.
Oui, enfin d'un quotidien de province, oui, qui dans une ville maritime.
Voilà, mais qui je crois ressemblait de très près à La Presse de la Manche.
Oui, je précise, parce que tu me donnes l'occasion, qui n'est pas un roman à clé, et ça continue, ça me gêne, et ça continue à me gêner, car des gens veulent absolument trouver des clés agréables ou désagréables.
Oui, mais pour nous, nous qui sommes un petit peu en dehors du Cotentin.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'atmosphère. Mais il est certain que des personnes que j'ai connues ne s'y reconnaissent pas. Ce qui peut être gênant.
L'atmosphère du quotidien, type de quotidien qui a disparu aujourd'hui.
Totalement.
Parce que le mode d'impression, c'était les linotypes.
Hein, le plomb.
Etc. Toute cette ambiance très, très spécifique,
les moments qui sortaient,
qui aujourd'hui n'existe plus.
Voilà.
Et alors, qui est restituée par ce très joli roman.
Bon, alors là, moi, si tu veux, à l'école des métiers d'art, pendant 4 ans, j'ai appris à voir. Ce qui est une chose importante, ils m'ont donné une vision. J'ai fait 4 ans d'études et qui m'ont marqué beaucoup. Mmh. Et après ça, il y a eu l'expérience de Viking. Et dès 1956, j'ai fait mes premiers articles dans La Presse de la Manche. Et c'est le moment où Viking commençait à battre de l'aile, où Alvard venait de naître. Enfin, il y avait des nécessités qui faisaient que je devais quand même trouver un métier, comme on dit. Et La Presse de la Manche m'a appris à écrire. Tout ce que tu disais tout à l'heure, tu me faisais peut-être trop de compliments, mais tout ça, je le dois à La Presse de la Manche. C'est La Presse de la Manche qui m'a appris la précision, le respect des témoins, ce qui m'a beaucoup servi dans des enquêtes ultérieures. Pendant des années, j'ai été quelques années à La Presse, j'ai appris à rencontrer des gens, à les faire parler, à restituer ce qu'ils m'ont dit, et en plus de ça, à écrire de manière à ce que tout le monde me comprenne. Moi, je suis très surpris de voir des gens qui se disent écrivains, qu'on célèbre à grand renfort dans les journaux littéraires, et qui écrivent des choses absolument illisibles, que personne ne peut lire, sauf les spécialistes eux-mêmes. Alors que moi, j'ai appris à la presse de la Manche, grâce à mon travail, grâce à mon patron, monsieur Justiniani, qui est malheureusement décédé depuis, il m'a appris à écrire pour tout le monde. Moi, ça a été ma plus grande joie, c'est quand je voyais des gens et qui me disaient, bon, quand ils apprenaient mon nom, mais c'est pas très original en Cotentin, quand je annonçais qu'on s'appelle Mabir, ah bon, vous êtes Mabir, mais vous êtes parent avec le Jean Mabir de la presse, je disais oui, c'est moi, et ils disent, ah bon, vous a lu, ça m'est arrivé un grand nombre de fois, et ça m'arrive encore chez des gens d'ailleurs qui sont ce que je dirais des vieilles gens maintenant, mais j'ai été arrêté une fois par normalement pour un contrôle banal par des gendarmes qui m'ont demandé mon identité, et ben j'ai appris évidemment que les gendarmes des brigades de Montebourg ou de Saint-Sauveur-le-Vicomte me lisaient attentivement tous les jours.
C'est alors, précieux.
Précieux, c'est très précieux. Mais écrire pour tout le monde me paraît essentiel. Si j'avais une définition à donner, alors bon, bien sûr, moi je crois être un écrivain populaire dans ce que ça comporte dans tous les sens du terme.
De noble,
exactement. Tu as trouvé le mot que j'aurais pas osé employer. Mais ça me paraît très, très, très important.
Nous avons quelques questions d'auditeurs, Jean. Victoria, question d'auditeur.
Et commentaire. Félicitations à Bernard Lugan de consacrer une émission à l'héritage nordique sur une radio plus particulièrement consacrée à la latinité.
Parfait.
Un auditeur demande, latin gracile, expliquez-moi, n'existe-t-il pas de normand blondinet gracile?
Sûrement.
Je suis d'origine sicilienne, dont les ancêtres venaient de Normandie.
Ah oui, c'est tout à fait.
Il y a quelques années, on a débaptisé un collège qui s'appelait Les Vikings depuis plus de 20 ans. Car c'était considéré comme raciste.
Oui, alors là, je vais vous raconter un peu l'histoire parce qu'elle est drôle. Une personne, je sais pas laquelle, un homme politique s'est dit, faut absolument débaptiser les Vikings, c'est affreux. Enfin, on ne doit pas avoir prendre un nom comme ça. Et ce collège était fréquenté par un grand nombre d'élèves, dont certains venant de l'immigration. Et il y avait un t-shirt avec les Vikings, et les jeunes beurs, comme on dit maintenant, étaient très fiers de leur t-shirt et ont été furieux qu'on les débaptise. Ils ne pouvaient plus avoir le t-shirt les Vikings, ce qui, par rapport à leurs copains des autres cités, les mettait vraiment sur un angle tout à fait particulier.
Et le lycée a dû venir Salvador Allende, après les Vikings. D'autres questions.
Une auditrice nous dit, j'ai 83 ans, je suis normande et je suis du pays de Caux. Quand je suis née, j'ai eu les cheveux blancs jusqu'à 11 ans. À partir de 12 ans, mes cheveux ont blondi. Et dans notre patois, il y a des mots d'origine norvégienne.
Voilà. Très bien, mais il y en a qui ont les cheveux qui sont moins blonds et puis d'autres qui les perdent, mais enfin de toute façon, les photos sont là pour en témoigner.
Ça, c'est une question personnelle qui vous est posée. Votre grand-père était-il instituteur à Demouville dans les années 40?
Pardon, je parle.
Votre grand-père était-il instituteur à Demouville
j'ai un nom qui est extrêmement répandu en Normandie, il est assez peu connu en dehors, où ils me mettent des H, en Bretagne ils me mettent des ils écrivent ça Mabir, en général M-A-B-H-I-R, ça veut dire le fils long, quelque chose comme ça. Mais alors en Normandie, par contre, c'est dans la Normandie nordique, il est extrêmement répandu, c'est un matronyme. Les matronymes sont les noms de femmes, ça vient de, paraît-il, d'après les spécialistes, d'Amable. Et c'est une dame qui avait des enfants, mais qui n'avait pas forcément un mari. Alors c'est ce qu'on trouve extrêmement fréquemment, c'est la même origine que les Maries, les Jeannes, les Charlottes, enfin ces innombrables matronymes qui, dans certains coins de Normandie, font presque la moitié des noms de famille. Ce qui en dit long sur nos grands-mères qui avaient le courage d'élever leurs enfants elles-mêmes.
Tout à fait.
Un auditeur vous demande si vous pourriez évoquer la Normandie dans une Europe des régions.
Oui, ça me paraît tout à fait normal. Enfin, c'est l'idée dans laquelle je me meus politiquement.
Dominique?
Alors, Jean Mabir, pendant ces années de la presse de la Manche, tu vas connaître une interruption. Interruption de d'octobre 1958 à octobre 1959,
oui.
Puisque tu es rappelé en Algérie. Alors, tu avais fait un service militaire dans les parachutistes, au bataillon de choc, c'est ça ?
Oui, enfin, c'est un petit peu, j'ai été appelé dans l'artillerie antiaérienne. Je ne sentais vraiment aucune vocation pour ça, puisque j'avais un brevet pré-militaire d'éclaireur scurbe. Enfin, ça, c'est les spécialités de l'armée de mettre les gens. Et, j'étais donc à Nîmes à l'école de l'artillerie antiaérienne. Et là, on a demandé s'il y avait des volontaires pour les troupes aéroportées. Alors nous étions 3 ou 4 élèves officiers à dire tiens les aéroportées, que on ne savait pas très bien ce que c'était. Moi qui avais un peu plus de culture historique que les autres, je pensais que les aéroportées étaient des troupes transportées dans les planeurs. Et ça me paraissait tout à fait bien. Moi j'aime bien marcher, mais enfin arriver en planeur me paraissait tout à fait intéressant. Et je me suis donc porté volontaire et je suis arrivé à l'école des troupes aéroportées à Pau. Et là j'ai vu énormément de garçons bien solides. Avec la plaque de vélo, le brevet para, et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a comme para ici ? J'ai dit mais où sont les planeurs ? On m'a dit mais dans l'armée française il n'y a pas de planeurs, et c'est comme ça que je suis devenu parachutiste. Et alors après avoir fait mon service au bataillon de choc, mais enfin un bataillon de choc qui était en garnison à Montauban, dont les cadres revenaient d'Indochine. Enfin j'ai pas fait un service militaire très très actif là-dessus, pas à part les sauts, mais ça c'est normal. Je suis rentré chez moi. Et un jour, j'ai eu la surprise, au bout de quelques années, j'avais fait mon service en 50-51, de voir arriver, je crois, 2 gendarmes m'apportant un ordre de rappel pour l'Algérie.
Voilà, et tu étais lieutenant de réserve.
J'étais lieutenant de réserve à ce moment-là.
À l'époque, voilà. Et nous nous sommes trouvés un petit peu dans la même région en Algérie, c'est-à-dire dans l'Est constantinois, mais oui. Pas du tout à la même période, puisque moi, j'ai connu cette région-là quelques années plus tôt, au tout début de la guerre d'Algérie. Et toi, tu connais la guerre d'Algérie dans les années 58-59, une guerre qui était
totalement différente,
et qui, je crois, puisque nous en avons souvent parlé, et puis il y a des traces écrites de ta part, nous allons en parler aussi, c'est une période qui a compté dans ta vie, une expérience forte, oui. Directe, celle des combats, celle d'une petite guerre, mais qui était aussi une vraie guerre avec des morts, etc. Expérience tout à fait particulière aussi, puisque tu as commandé un commando de chasse avec une participation importante de musulmans.
De FSNA, français de souche nord-africaine,
belle appellation.
Une belle appellation, mais ça c'est toujours l'hypocrisie des sigles. Alors, il s'est trouvé que j'étais donc rappelé dans la foulée de 58, parce que après les événements de mai 58, mon ami Godefroy est devenu député, et moi je suis devenu militaire. Chacun a eu sa part du triomphe gaulliste. Alors, je suis arrivé en Algérie, dans une Algérie qui vivait dans la foulée du 13 mai. On avait gagné la guerre, partout il y avait des comités de salut public. L'Algérie, la guerre semblait terminée. La première chose que j'ai pu constater, c'est qu'elle ne l'était pas. Et que, effectivement, il y avait évidemment une ambiance très très glorieuse, si je peux dire.
Hyper tricolore.
Hyper tricolore, mais une ambiance qui était beaucoup plus dans les déclarations, dans les proclamations obligatoirement dans la réalité. Et je me suis trouvé à la frontière tunisienne, et ma première constatation, enfin une de mes premières constatations, était que nous avions de l'autre côté de la frontière, partagée par un petit pointillé sur les cartes, entre 10 et 15 000 hommes de l'ALN qui étaient prêts à rentrer en Algérie, et qu'on ne faisait absolument rien pour résoudre ce problème-là. Donc nous vivions sous une menace permanente. Et ça, ça m'a quand même beaucoup frappé qu'on avait aux portes de cette Algérie soi-disant libérée française victorieuse, on avait la LN prête à rentrer dès qu'ils en auraient eu les moyens, et que jamais on a envisagé de faire une opération sur la Tunisie. Si j'ai demandé à servir dans l'Est constantinois, c'est que j'espérais qu'on allait faire une opération de grande envergure, les parachutistes sautant pour assurer le bouclage.
On va coucher dans le lit, voilà. Bourguiba.
Exactement. Et nous, pour une fois, c'est les parachutistes qui étaient en bouclage, et nous, on aurait été en ratissage. Enfin, c'était. Mais ça, c'est une vue de l'esprit totale. Ce qui se passait, c'est qu'on était, enfin, ceux de mes camarades qui étaient dans des postes, moi-même, j'y ai été un moment, j'ai commandé un moment un poste et un sous-quartier, on se faisait harceler avec du mortier lourd, avec du canon de 75 sans recul. Enfin, on était dans une position d'assiégé, ce qui ne convenait pas tout à fait à ce qu'on avait l'air de nous dire. Bon, premier point. Deuxième point, et ça m'a beaucoup influé, non seulement mes idées, mais je dirais par certains côtés ma réputation. C'était l'époque où l'Algérie française étant largement proclamée, tous les Algériens étant français à part entière, etc., on a recruté à tour de bras des Algériens pour servir dans l'armée française. Moi, je suis arrivé au moment où le recrutement battait son plein, où les promesses que la France était là pour toujours étaient alors là, il n'en était pas question, l'Indochine. Ça avait été évidemment un malheur, mais l'Algérie, il n'était pas question, il n'était même pas pensable qu'on puisse partir. Par conséquent, on pouvait recruter à tour de bras. Ce qu'on a fait. Au prix, avec des promesses que vous pouvez tous imaginer. Et moi, comme j'étais dans un bataillon qui était un bataillon comme les autres, qui était un bataillon de secteur, qui n'était pas un bataillon des troupes de réserve générale, j'étais heureusement la compagnie opérationnelle, mais enfin les opérations n'étaient pas très valorisantes, si je peux employer ce mot-là. Il y avait un commando de chasse qui a été créé par la décision du général Charles. C'est un de mes amis lieutenant d'actif qui l'a eu, et puis après ça, il est parti à l'école de haute montagne. Après ça, on a mis un autre officier d'actif qui était un sous-lieutenant, mais il a eu le malheur de recevoir une balle dans la tête. Et à ce moment-là, on s'est rabattu sur un officier de réserve qui était moi. Ce qui a scandalisé mon capitaine, me disant: un commando à un officier de réserve, on aura vraiment tout vu. Et comme il n'y en avait pas d'autres, on a bien été obligé de me prendre. Et là, j'ai découvert la réalité, si je peux dire, quotidienne, 24 heures sur 24, parfois au repos, mais presque toujours en opération, des musulmans avec qui j'ai vécu totalement. Je dis des musulmans, bien que je ne les ai jamais vus, disons, ayant des pratiques religieuses. Ça m'a beaucoup surpris, surtout maintenant quand j'y réfléchis. Maintenant, on parle toujours de musulmans. À l'époque, on disait pas, on ne les appelait pas musulmans. Les musulmans entre eux, souvent, s'appelaient les rebelles par rapport... les félagas, ils appelaient les rebelles. Nous, on disait les fels, eux, ils disaient les rebelles. Et puis tout le monde, quand ils étaient plus ou moins fâchés, disait tranquillement les bougnoules, ce qui était évidemment très 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 défendu, mais que tout le monde employait par les musulmans eux-mêmes. D'ailleurs, entre eux, quand ils avaient une discussion, ils se traitaient de bourbons.
Jean, nous arrêtons là. Rupture technique de 7h30.
Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle qu'à 21h tout à l'heure, vous pourrez suivre les soirées musicales. Dès 21h, série de jazz que j'aurai le plaisir de vous présenter. À 22h, rendez-vous avec Claudio, tout d'abord pour les musiques de films et ensuite à 23h pour une émission consacrée au pianiste Wilhelm Kempf. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, dirigée, je vous le rappelle, ce soir par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Le froid et la famille, dans les villes et par les champs, à la belle des victimes, marchaient les partisans.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Havre sur 101,1, pardon, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 17 décembre 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors nous sommes avec Jean Mabir, Dominique Vénère et Philippe Conrad. Victoria, je crois que nous avons des questions d'auditeurs.
Là, c'est une...
Une question.
C'est très personnel. Hommage à Jean Mabir qui commandait le même commando de chasse à la poursuite d'Amar, l'Indochine, dans le Djebel Alouf. Et c'est quelqu'un que vous connaissez sans doute très bien.
Bon, ça, c'est une allusion au livre Les Hors-la-Loi que j'ai écrit en me servant de, en partie de mon expérience et puis de ce que j'avais pu voir à l'époque. Mais je crois que Dominique...
Alors, oui, ce livre Les Hors-la-Loi qui est publié d'abord en 1968, qui fait ensuite l'objet d'une réédition aux presses de la Cité sous le titre Commando de chasse. Pourquoi ce titre, Les Hors-la-Loi, quel était, est-ce que c'est un titre à double sens?
C'est un titre, c'est tout à fait à double sens.
Alors, quel est le double sens?
Alors, le double sens, c'est que Les Hors-la-Loi indique aussi bien, parce qu'il est question d'un commando de chasse, mais il n'est pas question que d'un commando de chasse, ça indique aussi bien les gens du commando qui sont des Hors-la-Loi par rapport au reste du bataillon, qui est en plus ou moins enfermé derrière ses barbelés, et qui les voit avec une certaine distance, on ne peut pas dire que... nos rapports de en tant que commando étaient toujours bons avec le reste du bataillon, et en même temps l'allusion aux gens d'en face qu'on appelait officiellement les HLL, les hors-la-loi. Et je trouvais que nous avions la même manière de vivre, que nous étions finalement plus proches des gens d'en face de par la vie que nous menions que des gens que nous avions avec nous dans le reste du bataillon. Donc c'est un titre très très provocateur. Mais je pense d'ailleurs que les HLL, les hors-la-loi, les vrais hors-la-loi, n'étaient pas forcément en bon terme avec leurs supérieurs qui restaient en Tunisie, qui les envoyaient se faire casser la figure de l'autre côté du barrage électrifié, de même que nous, on était envoyés dans cette guerre au-delà d'eux. Un bataillon qui ne faisait que d'exécuter les ordres qu'il recevait par un gouvernement qui, je dirais, nous trahissait allègrement. Et ça, je le dis en pesant mes mots, je parle même pas des trahisons qu'il y a eu par la suite auprès, par rapport à ce qu'on appelle les harkis, mais l'ensemble de l'armée a été mal aimé, mal équipé, mal commandé, ça a été un gâchis incroyable. Et aujourd'hui, quand je vois des gens, des anciens d'Algérie, dont on fait dire, parce que qu'ils ont été traumatisés à jamais. Moi, je les ai pas vus traumatisés par les horreurs qu'ils auraient vécues. Je les ai vus traumatisés par le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de mener cette guerre. Moi, j'ai vu des gens qui partaient en opération sans godasses. Ils n'avaient même pas parce que leurs chaussures étaient, leurs godillots étaient à bout de souffle. Et moi, j'en ai vu un qui était parti avec des pantoufles, les pantoufles du docteur Rassurel sur lequel il avait mis, ça c'était pendant le commando, heureusement, mais dans des compagnies normales. Et là-dessus, il avait bricolé comme il avait pu ses guêtres. J'ai vu un gars qui avait son blouson complètement bouffé par un rat, et il y avait un trou énorme dans la poitrine, et on n'avait pas les moyens de le changer, etc., etc. Nos postes de radio sont toujours tombés en panne, nos véhicules, bien entendu, tombés en panne. Enfin, disons que par beaucoup de côtés, on a été la risée des indigènes, qui est quand même très désagréable. Et les départs en opération d'une unité de l'armée française, je ne dirais pas que ça a évoqué 39-40, parce qu'en 39-40, ça marchait parfois mieux.
Oui, c'était une vision qui a juste faire des amis dans le...
Moi, j'y peux rien. Hein. Moi, je dis ce que j'ai. Mais attention, nous étions nous-mêmes les premiers à déplorer cet état de choses. Moi, je déplorais qu'on ait des postes radio qui ne marchent pas, qu'en 1958, on n'avait même pas encore les armes automatiques, les A-52, etc., etc. Tout était pour les troupes de réserve générale, parachutistes et légionnaires, et les gens normaux qui avaient le plus gros et le plus quotidien cette guerre sur le dos, comme disait vulgairement mes gars, on n'est pas aidés. Et effectivement, ils n'étaient pas aidés. Et ça a beaucoup joué sur le moral de l'armée. Alors après ça, on nous a dit, au moment du putsch, il y a eu les transistors, un sursaut patriotique contre, etc., etc. Il y a eu surtout une armée qui était fatiguée par la vie qu'on lui faisait mener, car la vie des soldats normaux était extrêmement, extrêmement quotidiennement pénible.
Dominique Venner.
Tu as non seulement écrit quelques années après ce roman qui est en partie autobiographique, mais
la part récit romanesque, allez.
Voilà. Bon, la part de souvenir est personnelle est présente évidemment dans ce récit romanesque, mais immédiatement ou très peu de temps après ton retour d'Algérie, où tu es resté un an, tu publies en 1963 ton premier véritable livre, qui est un essai, Drieux parmi nous, et qui compte certainement beaucoup dans ton itinéraire, et dans lequel tu mets beaucoup de toi, pas simplement de Drieux. C'est un livre que j'ai lu et relu, et qui est un magnifique portrait de Drieux-La Rochelle, mais c'est un portrait vu par les yeux de Jean Mabir, et dans une certaine mesure, du Jean Mabir qui revient d'Algérie.
Oui,
parce que j'ai pas eu le sentiment, c'est exprimé noir sur blanc, la espèce de solidarité de sort entre le combattant de la Première Guerre mondiale, Catherine Drieux-La Rochelle, qui regarde cette guerre avec un œil multiple, et le combattant de la guerre d'Algérie que tu es, oui, ces deux regards se rapprochent et se croisent en quelque sorte dans cet essai.
Philippe Conrad.
Oui, moi j'avais été particulièrement frappé parce que j'ai découvert Jean justement un petit peu à la lecture de Drieux parmi nous, après en avoir entendu parler dans l'esprit public évidemment. Ça a été un peu une découverte pour moi parce que j'avais jamais entendu parler de cet auteur. J'avais 18 ans à l'époque, j'étais en classe préparatoire et j'avais trouvé là des formules, une vision des choses distanciée, particulièrement intéressante, révélatrice, riche. Quand Jean évoque sa guerre d'Algérie à travers Drieux, on retrouve le couple divin du courage et de la peur de Drieux à Charleroi. Jean, ensuite, l'Algérie, pour lui, ça va être aussi le point de départ d'une réflexion sur l'Europe, un petit peu comme la guerre de 14 avait amené Drieux à cela, à mesure de la France et puis aux réflexions du jeune européen. Donc je crois que ça a été une sorte de synthèse, un petit peu de tout ce qu'il pouvait ressentir, des expériences qu'il avait déjà accomplies à cette époque. Et je crois que ça a été pour lui, dans une très large mesure, un livre fondateur. Après les premières expériences, justement, existentielles qui avaient été les siennes, ça a été un livre qui mettait en place un certain nombre des idées, des sensibilités, des sentiments qui allaient être les siens ensuite. Ouais.
Oui, c'était très important du fait que je suis rentré d'Algérie en 1959, à la fin 59, disons début 60, et j'ai voulu à ce moment-là, plutôt que de rester, de m'enfermer dans une vision algérienne, faire une rupture totale. Et j'ai commencé à lire le premier livre que je crois que j'ai lu, en tant que je l'avais déjà lu avant, mais enfin que j'ai relu, c'était justement La Comédie de Charleroi. Et je me suis dit, ce que j'ai de plus utile à faire, c'est de relire, j'étais journaliste à la Presse de la Manche, mais enfin j'y ai passé tous mes loisirs, c'est de relire Drieux. Voilà, Drieux, on n'en parle pas. Philippe vient de nous dire qu'il n'en avait jamais entendu parler, ce qui, moi, me paraissait...
Il n'était pas dans le Michel et la Garde.
Voilà. Mais il est toujours pas. D'ailleurs, il a été retiré, il faisait une Légion récemment. Et il s'est trouvé que j'ai dit je vais relire tout Drieux, voir ce qu'il y a, s'il y a aujourd'hui, bien des années après, quelque chose en tirer. J'ai passé toutes mes vacances à la Bibliothèque Nationale, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photocopie. Alors, je recopiais à la main les passages que j'avais envie de lire. J'ai lu la plupart de ses articles, en plus des livres. Enfin, j'ai fait donc un travail absolument énorme. Et puis après ça, ben, j'ai été obligé, pour différentes raisons. Je voulais faire des morceaux choisis. Je voulais pas faire un livre personnel. Et puis, les morceaux choisis, il y a eu un événement qui était la mort de Roger Nimier. Il y avait un contrat qui avait été signé avec Gallimard, il avait été annoncé dans le catalogue de Gallimard, les textes choisis de Drieux présentés par Jean Mabir, et puis brusquement, Nimier meurt, se tue en voiture, et dans les jours qui suivent, on m'a appris que le livre ne serait pas édité par Gallimard. Alors à ce moment-là, Roland Laudenbach de la Table Ronde m'a offert l'hospitalité et j'ai écrit Drieux parmi nous en une douzaine de jours à l'aide des morceaux choisis que j'avais déjà de Drieux. Et je suis parti, d'ailleurs c'est toujours une rupture, j'étais non seulement, je voulais partir encore plus loin que Cherbourg, je suis parti à Guernsey et tout seul à Guernsey pendant j'ai passé autant de jours qu'il y a de chapitres. Chaque jour j'écrivais un chapitre et après ça le livre a été terminé et a été édité par la Table Ronde. Ça a été mon premier livre, c'est un moment toujours impressionnant quand on voit son premier livre. Et qu'il ait été réédité récemment par Irmin Soul m'a beaucoup frappé, je dois dire que ça m'a rajeuni, si je peux dire.
Oui, c'est un très beau livre. Tu viens d'utiliser à deux reprises le terme de rupture. La première fois, tu l'as utilisé en disant que, au retour de l'Algérie, tu souhaitais marquer une rupture avec ce que tu venais de vivre, dans une certaine mesure, et rupture à travers la découverte, pas la découverte, puisque tu connaissais déjà, évidemment, Drieux-La Rochelle, mais une exploration beaucoup plus profonde, attentive de son œuvre, mais il n'y a pas eu totalement de rupture chez toi par rapport notamment à la génération de la guerre d'Algérie, puisque tu vas la retrouver presque immédiatement par une longue collaboration à ce mensuel qui a compté l'esprit public. L'esprit public qui était lancé notamment par Philippe Éduy, par Roland Laudenbach, par Jacques Laurent, auquel Roger Nimier, je crois, lui-même avait prêté un peu son concours, etc. De décembre 62, je crois, si mes chiffres ne sont pas inexacts, à mai 1965, tu collabores à l'Esprit public et avec... une tonalité qui est tout à fait différente de celle de l'ensemble de ce journal, qui était une sorte de tribune très ouverte, pro-Algérie française, puisqu'à l'origine même, c'était une sorte d'organe officieux de l'OAS. Ouais. Et tu es attiré à l'esprit public, je crois, par Philippe Éduy, mais d'emblée, sous ta signature, c'est un esprit tout à fait différent qui s'exprime, qui se manifeste, qui aura un grand succès auprès des jeunes lecteurs et peut-être un peu moins de succès auprès des plus anciens.
Voilà. Bon. Alors, moi, d'abord, il faut dire que le premier... J'ai connu Philippe Éduy à cause du lieutenant Etagleïte. J'ai été bouleversé par le lieutenant Etagleïte, non pas par l'espèce de vague idéologie qu'on pouvait en ressortir, mais par la vérité de ce qu'il racontait, car on a été en Algérie exactement au même moment, on a été promu capitaine le même jour par le journal officiel, enfin, on était vraiment dans des expériences, et d'autre part, Philippe Éduy, lui, était dans une unité de tirailleurs, et par conséquent, avait également une expérience des fameux FSNA. Bon, et j'ai écrit à Philippe Éduy qui m'a tout de suite répondu. C'est rare que, qu'on suscite un tel enthousiasme chez un lecteur. Et Philippe Éduy m'a fait connaître Roger Nimier. Et Roger Nimier, la dernière fois, j'ai vu quelques fois, c'est lui à qui j'ai parlé de travail que je faisais sur Drieux. J'étais très très loin. J'étais très très loin de l'esprit public que je ne connaissais même pas. Je ne connaissais que Philippe Éduy et le lieutenant Etagleïte qui pour moi appartenait au passé. Et la dernière fois que j'ai vu Nimier sur le trottoir, comme ça, en me quittant, il me dit, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, on se voyait de temps en temps, mais il me dit surtout ne laissez jamais tomber Philippe. Bon, bah, il m'a dit ça, j'ai obéi, il s'est tué quelques jours après, et je n'ai pas laissé tomber Philippe Éduy. Et Philippe Éduy avait été, à ce moment-là, tu reprenais le mot de rupture, était en grande rupture avec la plupart des collaborateurs de l'esprit public, et qui plus est, une bonne partie des lecteurs. Et notamment, à cause d'un article qui a fait grand bruit, qui s'appelait, de l'Algérie française à la France européenne, si mes souvenirs sont bons. On voit le chemin qu'il avait parcouru. Je dois dire que mon premier article, qui d'ailleurs a valu à mon directeur la visite des renseignements généraux, se demandant près de la Manche qu'ils avaient vraiment quand même un drôle de collaborateur, était un article consacré au problème des harkis. J'avais écrit une lettre à SNP sans nom patronymique parce que il y avait des musulmans qui n'avaient même pas de nom. Alors, on les appelait SNP et pour donner le prénom. Alors c'était SNP Hassen, qui est une histoire vraie, qui était un gars que j'avais récupéré au cours d'une opération, et puis qui m'avait suivi et qui était resté au commando. Et puis après, ben, je pense qu'il est devenu, et c'est la question que je posais, et je l'ai posée en termes, je pense, assez violents, et mon premier article publié par l'esprit public a été celui consacré au Harki. Puis après ça, ben, je suis resté à l'esprit public, et j'y ai amené un esprit complètement différent de celui qui régnait jusque-là dans le journal. Je sais, je l'ai su après, d'ailleurs, je me rendais pas compte du scandale que je faisais, parce que j'avais des jeunes, si Philippe Conrad qui trouvait que ce que je faisais était très bien, mais il y avait quand même beaucoup de lecteurs qui toussaient et qui trouvaient que j'allais un peu fort, étant donné que j'étais régionaliste d'un côté, c'était pas encore tellement mal vu. J'ai été socialiste, je le suis toujours. J'ai été européen,
mais
je suis
encore plus. Mais bon, ton socialisme...
Qu'est-ce qu'on appelle socialisme?
Il y a une discussion. N'était pas forcément celui du Parti Socialiste.
Non, mais j'étais même plus loin. C'est ce que j'ai écrit à l'armée. Au moins, j'ai eu l'avantage pendant un an de vivre un socialisme intégral, total.
On partage. C'est le seul vrai.
C'est le seul vrai, non mais d'accord.
Ah, mais incontestablement.
C'est
dans l'ordre militaire que l'on trouve le vrai socialisme.
Et c'est celui que j'ai trouvé chez Drieux qui parlait de socialisme. Bien sûr. Mais je dois dire que à l'esprit public, j'ai eu de liberté après avoir été à la presse de la Manche où j'avais une liberté complète. J'ai eu à l'esprit public une liberté complète avec Philippe Edouy qui n'avait même pas le souci de choquer ses lecteurs. Après ça, j'étais dans un autre mensuel où le directeur qui était un ami voulait quand même que je ne choque pas trop les lecteurs. Mais à l'esprit public, Philippe était ravi. Philippe était un garçon. On parlait très longtemps de Philippe.
Nous allons parler dans un instant de cette autre publication que tu viens d'évoquer succinctement.
Restons sur l'esprit public parce que c'est un point fondateur là aussi pour.
Et alors là, Philippe était un garçon absolument merveilleux, mais disons il y avait un côté chez lui un peu irréel, un peu. Il y a eu un couple qui s'est formé qui était un couple infernal. C'est quand Hubert Basso est arrivé et le tandem Edouy Basso ne pouvait pas fonctionner, a fonctionné un certain temps, K1, K1, et puis finalement Basso s'est lancé dans la politique politicienne, si je peux dire, et un jour c'était, c'est-à-dire après avoir écrit les Hors-la-Loi justement, qui n'était pas encore publié, mais j'avais terminé le manuscrit, et je me suis pris de bec avec Basso, et j'ai quitté l'esprit public, au regret d'ailleurs de certains lecteurs, dont certains lecteurs m'ont suivi dans un nouvel organe de presse.
Tu as été chaleureusement accueilli, cet organe de presse, c'était Europe Action, mais nous allons en parler un instant. Philippe Conrad avait quelque chose à dire sur l'esprit public.
À propos de l'esprit public, oui, je crois que c'est intéressant de rappeler ce que fut cette expérience au début des 60, qui correspond à une séquence de temps assez réduite. D'ailleurs, nous sommes à l'époque dans la foulée de l'affaire d'Algérie, et l'esprit public pour toute une génération de jeunes gens qui ont découvert la politique avec l'affaire d'Algérie, qui n'avaient jusque-là que des références assez floues en ce domaine, avec entre Dien Bien Phu, la pression de l'insurrection hongroise et puis l'issue calamiteuse de l'affaire d'Algérie, c'était ça les événements qui servaient un petit point de repère. L'esprit public et en particulier les articles de Jean ont fourni un certain nombre de clés, ont ouvert un certain nombre de perspectives qui étaient à chaque article vraiment une découverte tout à fait passionnante, avec cet avantage extraordinaire dans la prose de Jean Mabir, c'est qu'il n'assénait jamais des dogmes, des vérités idéologiques bétonnées comme pouvaient le faire à l'époque les staliniens de tout poil. Il posait des questions et il ouvrait des débats en quelque sorte. Hein. Il posait des questions, pourquoi je ne suis pas fasciste, pourquoi je ne suis pas communiste, confession d'un nihiliste de droite, etc. Il évoquait il prenait un petit peu tout le monde à contre-pied. Il évoquait un personnage comme Saint-Just pour lequel a priori on n'a pas tellement de sympathie, mais il donnait une sorte de souffle de liberté, d'oxygène à cette revue qui en faisait effectivement, qui faisait que c'était lui à l'évidence le collaborateur le plus lu. Et puis alors je voudrais lui rendre hommage en particulier pour quelque chose qu'il a peut-être oublié dans l'un des derniers numéros de l'Esprit Public auquel il a collaboré. Et il avait réalisé un travail considérable, ce qu'il avait intitulé la bibliothèque de l'activiste. Et là il y avait plusieurs dizaines d'ouvrages, dont j'ignorais l'existence d'à peu près la moitié. Et c'est grâce à lui, par exemple, que j'ai découvert Hans von Salomon, que j'ai découvert que Giono avait écrit Les Frères Richesse, que j'ai découvert les ouvrages de Paul Serrand. Et là, cela vaut pour mon expérience personnelle, mais je crois que beaucoup d'amis de cette génération ont profité également de toute cette pédagogie. C'est quelque chose qui a été très important pour beaucoup d'entre nous.
Oui, tout à fait. Comme nous disions au début, période de coagulation.
Voilà. Et alors, derrière ces questions, derrière ces ouvertures, il fallait derrière effectivement une cristallisation plus précise. Et je pense que ça a été l'étape ultérieure de l'itinéraire de Jean Mabir, étape au cours de laquelle nous nous sommes évidemment retrouvés.
Quelques questions. Chers auditeurs, nous sommes à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Alors un auditeur nous dit, j'étais dépanneur radio en Afrique du Nord et je confirme ce que dit votre invité, les gars partaient au casse-pipe avec des radios hors d'usage.
Il était rapidement.
Un autre auditeur, admiration d'un officier d'actif pour Jean Mabir. Question, dans l'ouvrage de Todorov, bon ouvrage, l'auteur cite l'armée française qui torturait systématiquement, etc., etc. Ce serait bon de vous élever contre cette contre-vérité.
Bon, enfin ça c'est... L'histoire de la torture est une chose qui est arrivée... on a bien mis 30 ou 40 ans sans apercevoir. Car à l'époque, personne n'en parlait, sauf une certaine presse qu'on ne lisait pas. Et c'est toute une campagne. Alors après ça, il y a eu la campagne sur les viols, mais là, ça n'a pas pris quand même, pour pas exagérer. Mais il y a eu ce qu'on ne voit pas, c'est que cette guerre a été une guerre dure, qu'on nous a fait durement et auquel on a répondu durement. Mais qu'il y ait eu un usage systématique de la torture, alors là, je m'élève totalement contre ça. Je vais même beaucoup plus loin, c'est que je suis totalement opposé à une certaine brutalité qu'il y a eu dans certains cas, qui était totalement inutile, et dont les exemples que j'ai vus, qui n'étaient pas, je tiens à le dire, n'étaient pas le fait des chasseurs qui étaient de mon bataillon, mais le fait des gendarmes qu'on accompagnait en opération. Et là, j'ai assisté à des scènes que je considère comme regrettables, non pas que ce soit de la torture, mais c'est des brutalités inutiles qui commencent par le coup de pied aux fesses et qui se terminent en faisant mordre les gamins par des chiens. Voilà.
Autre question.
C'est une auditrice qui vous demande qu'est-ce qui vous a amené à écrire L'été rouge de Pékin ? Car je suis une petite fille d'un officier parti de Cherbourg avec la colonne Seymour.
Bon. Ah oui, mais oui, tout à fait. Bon. Alors, oui. Vas-y Jean.
Ce qui m'a été amené, c'est parce que j'ai trouvé que c'était un sujet assez extraordinaire. J'avais peut-être vu le film Les 55 jours de Pékin, mais comme il était tellement mauvais, il m'inspirait en rien. Et en travaillant sur ce livre, j'ai découvert une fort belle histoire dont on reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure.
Tout à fait. Autre question, Victoria.
Ancien de la rue des Ours qui vous salue. Combien y a-t-il de volumes à la collection Action ? Car il me semble qu'il manque un tome 20 ou 21.
Non, la rue aux Ours, c'était l'un des sièges d'Europe Action.
Donc,
sujet que nous allons
aborder
à l'instant, puisque
ça fait partie de la chronologie.
Nous continuons.
Les historiens, nous suivons
systématiquement la chronologie. Alors que l'aventure de l'esprit public se termine
mal,
oui, incessamment. Jean Mabir se joint à une autre aventure qui est celle d'Europe Action. Europe Action, c'est à la fois une revue, bien sûr, mais c'est une mouvance, un mouvement au sens large du mot. Ce mouvement, d'une façon pratique, étant animé par une association d'étudiants, la Fédération d'étudiants nationalistes, qui joue un grand rôle au sein de cette mouvance. Alors, Europe Action, nous nous y retrouvons ensemble, Jean. Je rappelle en deux mots quelles étaient les intentions d'Europe Action, qui avait été créée à la fin de 1963, début 1964. Ceux qui en ont été les instigateurs, à commencer par moi-même, évidemment, nous sortions également de l'ensemble des aventures de l'Algérie, soit comme soldats, soit comme combattants politiques. Et pour certains d'entre nous, il y avait plusieurs soucis sortant de ce qui avait été un échec politique pour ceux qui étaient des partisans de l'Algérie française au sens large. Nous ne voulions pas rester sur un échec politique, d'une part, mais surtout, nous souhaitions donner une signification à longue portée à l'action qui avait été la nôtre. Et l'action qui était la nôtre ne se situait pas dans le cadre étroit de l'Algérie française. Nous avions conçu et nous avions une vision de cette action par rapport à des idées qui préexistaient à l'Algérie française et qui ont perduré bien au-delà de l'Algérie française. Ces idées, nous les résumions par un mot qui était critiquable à certains égards, c'était le mot nationalisme. Mais à ce mot nationalisme, nous avions la volonté, l'intention de donner une signification nouvelle. Le nationalisme pour nous, ce n'était pas s'enfermer dans le cadre étroit de la nation, c'était ouvrir le cadre identitaire à l'ensemble du monde européen auquel nous appartenions et auquel appartient la France, mais il y avait également le désir de donner un autre sens à ce mot de nationalisme afin qu'il exprime une certaine vision des choses, une certaine vision de la vie, une certaine vision du monde. C'est tout cela qui animait, en quelque sorte, l'effort conduit par EuropeAction, qui a été un effort de renouvellement des idées, je crois, tout à fait capital dans l'histoire des idées en France et même en Europe au XXe siècle. Et à cet effort, Jean, tu as apporté une contribution multiple et essentielle, ton professionnalisme, car nous n'avions pas ce professionnalisme, alors que toi tu l'avais, un sens esthétique tout à fait exceptionnel, ce qui fait que, à partir de ton intervention, la revue s'est modifiée dans son aspect technique et graphique. Tu as apporté les idées qui étaient les tiennes, tes interrogations, celles qu'évoquait tout à l'heure Philippe Conrad, ton amitié, ta chaleur, etc. Et tout cela a contribué à donner un certain visage à cette aventure d'EuropeAction qui a duré jusqu'au début de 1967. Voilà. Après quoi, on entre de nouveau dans d'autres aventures, puisque la vie ne s'arrête jamais. Et pour les combattants qui sont foncièrement attachés à leur identité, évidemment, la vie et le combat ne peuvent jamais s'arrêter.
Bon, moi, je voudrais ajouter peu de choses. Ce qui m'a paru important, c'est que je me suis cru capable de donner à EuropeAction un certain style. Et le style qu'on a réussi à donner, que j'ai réussi, et puis d'autres avec moi, à donner, est une chose qui continue à marquer les gens. Et il y a une espèce de mythe d'EuropeAction qui a été non seulement causé par les idées qu'on a défendues, mais également par le choix des photos, par le choc, disons le choc des photos. Et ça me paraît très important. Une autre chose qui me paraît très importante, et c'est pour ça que j'ai rejoint EuropeAction avec beaucoup d'enthousiasme, c'est que EuropeAction était bien entendu une revue, mais était bien au-delà d'une revue, était ce que j'appellerais une école. Ce que n'était pas du tout l'esprit public. L'esprit public, il y avait des amis de l'esprit public, le rassemblement de l'esprit public, ils appelaient REP parce que ça avait une signe, ça sonnait bien. Mais il n'y avait...
Ça rappelait quelque chose.
Mais il y avait autour de ça des très très braves gens qui lisaient le journal, mais qui étaient des gens veufs d'une guerre, orphelins d'une guerre, et qui ne voyaient pas en général au-delà, qui n'avaient pas d'idée au-delà de ce qu'il fallait faire. C'était même effrayant à quel point il y avait un vide intellectuel à l'esprit public. Le seul qui a essayé et qui a réussi à le combler, c'est Philippe Éduy. Mais tous les autres continuaient à dire la même chose, à vivre dans le passé. Or, EuropeAction ne vivait pas dans le passé. EuropeAction vivait à une dimension nouvelle, donnée d'ailleurs par le nom même d'Europe, qui était un nom auquel on n'était pas habitué. Il y avait un pas à faire franchir. et qui me paraissait un pas important de la nation au continent. Mais ce qui avait d'essentiel, c'est qu'autour d'EuropeAction, il y avait une véritable école. Tu parlais tout à l'heure de la Fédération des étudiants nationalistes, mais nous n'avons jamais retrouvé une telle ferveur, une telle discipline, un tel sens du service, une telle camaraderie. Là, je ne tarirai pas. J'ai assisté depuis la disparition d'EuropeAction, j'ai assisté à un certain nombre d'événements, de tentatives. Je n'ai jamais retrouvé l'état d'esprit qui était celui des garçons et des filles ailleurs d'EuropeAction. C'est une chose qui est extraordinaire, et non seulement il y avait des idées, mais en plus de ça, il y avait un certain type d'homme qu'on avait réussi à façonner, ou qui s'était façonné eux-mêmes. Mais la FEN, la Fédération des étudiants nationalistes, a été quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, n'était pas un parti politique, et là c'est un problème qui s'est posé à un moment ou à un autre. Est-ce qu'une école doit devenir un parti politique ou non? J'ai écrit il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, 2 ou 3 ans peut-être, en disant qu'il y avait une contradiction absolue entre le travail doctrinal et le travail électoral, et je continue à le penser, et que plus un mouvement avancera sur le plan doctrinal, et moins il recrutera de suffrages, ça me paraît absolument évident. Et c'était là une sorte d'impasse dont nous étions, je pense, plus ou moins conscients, mais comme nous étions en plein dans l'action, une action qu'il fallait faire, il fallait bâtir, il fallait réunir des gens, il fallait sauver des jeunes du désespoir, car qu'est-ce qu'on pouvait offrir aux jeunes qui avaient vécu très jeunes, à 14-15 ans, le traumatisme de la perte de l'Algérie? On allait leur proposer quoi, de débarquer à Sidi Ferruch? Ça me semblait quand même moins excitant que de bâtir un continent avec toutes les difficultés que ça représente. Et EuropeAction, pour moi, était exactement dans une ligne qui était la mienne depuis toujours, qui était la ligne européenne. Et ça, le titre même l'indiquait, et l'état d'esprit qu'il y avait était un état d'esprit européen, où grâce notamment à des garçons comme Fabrice Laroche, on avait des correspondants dans tous les pays d'Europe, et même quelquefois même au-delà des mers. Donc je pense que l'expérience d'EuropeAction est quelque chose de considérable, où moi j'ai appris énormément, j'ai appris la rencontre des militants. Et ça c'est énorme, je ne l'avais jamais connu avant.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquet, je dirige ce soir par Bernard Lugan. Avec Dominique Vénère et Philippe Conrad, nous avons pour invité Jean Mabir. Dominique Vénère, vous aviez une question à poser à Jean Mabir.
Oui, nous allons poursuivre tout simplement l'ordre chronologique.
Indispensable. Toujours en bon historien.
Exactement. Quelques années après ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire EuropeAction, Jean Mabir et moi allons nous retrouver dans une aventure éditoriale. Un certain nombre de hasards avaient fait que j'avais créé et dirigé une collection de récits de guerre chez un éditeur, un grand éditeur, André Ballant. Cette collection porte le nom de Corps d'élite, est l'un des tout premiers ouvrages de cette collection. Elle a été écrite par par Jean Mabir, Les Samouraïs, et puis il y en a eu d'autres. Jean Mabir a été l'un des piliers de cette collection Cordélite, avec des gens tels que Erwan Bergot, Yves Bréret, etc.
Marc Flamand,
certes.
La collection où j'ai écrit mon premier livre aussi.
Donc, ça a été... Alors, d'abord, c'est une collection qui a marqué, évidemment, mais c'est à toi de répondre. J'ai le sentiment que elle marque peut-être un tournant, si l'on peut parler de tournant, dans l'existence, et notamment dans l'existence intellectuelle ou professionnelle. C'était pas ton premier livre, puisque tu en avais déjà écrit plusieurs, mais le premier livre, Les Samouraïs, et les autres que tu as écrits dans cette collection, ce sont tes premiers récits de guerre, en quelque sorte. Après Les Hors-la-Loi, mais Les Hors-la-Loi, c'est
non, mais Les Hors-la-Loi a eu un problème, c'est que ce qui a été édité chez Robert Laffont, on avait, l'éditeur s'était dit, c'est 10 ans après les événements de mai 58, nous arrivons à mai 68, un grand récit sur la guerre d'Algérie.
Formidable,
quoi, ça va être le best-seller. Et je suis tombé, les Hors-la-Loi ont été publiés au milieu des événements de 68 dans un quartier. Je vous rappelle, la signature se passait rue Cassette dans un quartier latin en pleine effervescence. Enfin, vraiment, c'était un des plus grands échecs commerciaux, c'est un bien grand mot, parce que j'ai dû en vendre 12 000, ce que je voudrais bien vendre aujourd'hui. Mais ça, c'est autre chose. Le livre n'a absolument pas eu le destin qu'il aurait dû avoir. Donc, j'étais arrivé avec, en quelque sorte, un livre rentré quand il m'a proposé de travailler chez André Ballant à la collection Cordélite. Collection qui est devenue également un peu mythique. Je sais pas, on a la chance d'avoir fait partie d'entreprises mythiques.
Nous sommes des créateurs de mythes.
Nous sommes des créateurs de mythes et la collection Cordélite.
Disons la chose en toute modestie.
La collection Cordélite a ceci d'extraordinaire qu'elle a lancé un genre qui est le genre du livre de guerre écrit d'une manière peut-être romanesque, enfin, je voudrais pas dire bien écrit, mais enfin écrit quand même d'une autre manière que ce qu'on lisait d'habitude, qui sont les souvenirs du soldat untel. Et là, on a réussi à créer quelque chose, tant et si bien d'ailleurs, que par la suite, je me suis trouvé à écrire moi-même des récits de guerre dans le même esprit qu'avait été le Cordélite. Il faut dire que les Cordélites ont bénéficié d'un lancement tout à fait extraordinaire, sa Jeannine Ballon, l'épouse alors d'André Ballant, avait pris des choses en main et a réussi à avoir de la presse, a réussi à avoir des signatures. Enfin, vraiment, la collection a été très bien managée, comme on dit.
Oui, avec des résultats.
Et bien dirigée par, évidemment, le directeur de collection que tu connais mieux que moi.
Les résultats étaient effectivement très satisfaisants.
Et pour tous les livres de la collection, d'ailleurs, tous ont bien marché. Il y a eu l'apparition, et ça on va y revenir tout à l'heure, il y a eu l'apparition de Bergot, comme chef de file par certains de ses livres, parce qu'il avait choisi les sujets les plus porteurs. Il avait choisi la Légion et les paras. Avec ça, il jouait quand même sur un bon registre. Et à la suite, on va voir les gens qui ont travaillé à Cordélite devenir des écrivains dits militaires.
Philippe Conrad.
Oui, alors Jean, à partir de là, toute une partie de ton œuvre va être consacrée justement à l'histoire militaire. Hein, je crois que c'est à peu près la moitié de tes ouvrages qui correspondent à cette veine-là, à cette matière-là. Hein. Alors, ce n'est pas...
La moitié et les trois quarts des ventes.
Les trois quarts des ventes, oui. Alors, ça n'est pas vraiment surprenant que tu te sois orienté dans cette direction. Je me souviens en effet d'un article de l'Esprit Public où se trouvait cette formule qui a peut-être pu paraître assez surprenante à certains, dans laquelle tu expliquais que les deux endroits où tu te sentais les mieux, c'était la grande salle de la Bibliothèque nationale ou alors la place d'armes d'un régiment parachutiste. Donc alors quand on fait la synthèse des deux sensibilités, d'ailleurs que je comprends parfaitement, quand on fait la synthèse,
c'est une assez belle formule.
Quand on fait la synthèse des deux, ça devait naturellement t'amener à l'histoire militaire. Et dans ce domaine, eh bien tu as abordé des questions extrêmement diverses. Tu en as certaines qui me sont très chères. Là, on évoquait tout à l'heure l'été rouge de Pékin. Il se trouve que mon grand-père est parti de Cherbourg avec le 18e régiment d'infanterie coloniale pour aller délivrer les légations. Et puis il y a d'autres points aussi. Tu as écrit un ouvrage superbe sur la bataille de l'Isère et la famille de mon épouse est originaire de Dixmude. Donc on ne s'est jamais trop quitté, tu vois. Et donc tu t'es consacré à des domaines assez différents en matière d'histoire militaire, la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, avec notamment toute une série sur les combattants français du front de l'Est, hein, avec la trilogie de la brigade Frankreich et de Mourir pour Berlin, avec les deux volumes récents consacrés à la LVF. Jusque-là, il n'y avait absolument rien sur ces questions. Là, tu as fait un travail de pionnier tout à fait considérable, un travail de pionnier dans les archives, un travail d'enquête absolument irremplaçable. Également, tu t'es consacré à l'étude d'un certain nombre d'unités comme les chasseurs. Tu as servi dans les chasseurs et tu as consacré plusieurs ouvrages aux chasseurs alpins, aux chasseurs en général, n'est-ce pas, au Diable Bleu. Ça crée un petit point commun aussi entre nous, puisque ça m'est arrivé également de porter la tenue bleue. Tu t'es consacré également aux parachutistes, bien sûr, hein, puisque tu as servi aussi, on l'a dit, dans les parachutistes, au premier bataillon de choc. Alors là, c'est un petit peu particulier, parce que tu t'es surtout intéressé aux parachutistes britanniques, hein, ceux du débarquement de Normandie, ceux qui ont sauté également sur la Roure au printemps 45. À ce propos, d'ailleurs, je ne crois pas que tu aies fait de livres, tu as fait des articles, mais tu n'as pas fait de livres sur Arnhem, oui, sur la première airborne.
Et pourquoi ? Voilà. Alors, d'abord, je veux dire que pour cette carrière, s'il faut bien employer le mot d'écrivain militaire, j'ai été soutenu, promu par des éditeurs importants, des éditeurs tels que Artem Fayard, tels que les Presses de la Cité, tels qu'aujourd'hui Jacques Granchet. J'ai eu la chance extraordinaire, après André Ballant et ce démarrage assuré par André Ballant, de passer commercialement à une vitesse supérieure qui m'a à la fois beaucoup servi et peut-être un peu desservi. Alors, j'ai d'abord été chez Fayard et j'ai fait mon premier livre parce que il n'existait pas de livre là-dessus sur les Français sur le front de l'Est, et il y a eu la brigade Frankreich, et et surtout l'éditeur a eu la surprise d'avoir très rapidement d'en vendre 75 000 en édition ordinaire, ce qui est une chose énorme, et je dois dire que l'éditeur était très content, mon directeur de collection qui était Constantin Melnik était très content, tout le monde était ravi, ils ont déroulé un petit peu le tapis rouge en disant quand est-ce que vous en donnez un autre, quand est-ce que vous donnez une suite, et ainsi j'ai écrit la division Charlemagne, j'ai écrit Bourrir à Berlin, toutes choses qui ont été totalement soutenu par les éditions Artem Fayard. Et puis après ça, ou parallèlement, j'ai travaillé au Presse de la Cité, où Jeannine Ballant, qui était l'épouse à ce moment-là d'Erwan Bergot, était directrice de collection, et on a monté tout autour d'Erwan, je dirais, qui était vraiment la locomotive, toute une collection de livres d'histoire militaire, où collaborait un grand nombre d'écrivains et qui prenaient, je dirais, nous copions pas, mais nous avions un petit peu le même genre d'aborder, la même manière d'aborder les choses, et chacun un peu dans sa spécialité. Il y avait un peu la spécialité Légion, il y avait la spécialité Para et Légion, comme Bergot avait servi dans un REP, il faisait tantôt Para, tantôt Légion. Moi, j'ai introduit là-dedans, notamment les chasseurs, parce que j'avais été chasseur moi-même, et également, ayant été aussi parachutiste, tu parlais, Philippe, tout à l'heure, des parachutistes anglais, j'ai écrit, ou britanniques plus exactement, j'ai écrit à peu près l'histoire complète des parachutistes britanniques, mais pas dans l'ordre chronologique. Alors, je dois dire que lorsque j'ai écrit l'histoire des parachutistes britanniques en Normandie, de la sixième airborne, que je connaissais d'abord, je connaissais par le lieu, c'était en Normandie, je connaissais bien, j'ai beaucoup de reconnaissance sur le terrain, ça a très bien marché. Et puis après ça, j'ai écrit l'histoire tout à fait à la fin. Alors là, à la fin, c'était tellement le saut au-delà du Rhin, disons qu'il y avait moins un public pour ça. Et alors j'ai connu plus exactement mon éditeur, qui est Jacques Grancher, a connu un des plus grands insuccès de sa carrière avec mon livre qui s'appelle Les Diables Rouges attaquent la nuit, qui a l'avantage d'être uniquement composé de documents pour la plupart inconnus en France, que j'ai été chercher au musée des troupes aéroportées britanniques, j'ai été chercher à l'Imperial War Museum, et j'ai sorti un livre qui est vraiment composé de récits absolument inédits et qui retrace le début des parachutistes anglais et également la campagne de Tunisie. Campagne de Tunisie des paras anglais, qui est totalement inconnue. Et je dois dire que c'est un livre dont moi j'étais personnellement assez content, d'abord parce que j'écrivais quelque chose qui n'avait jamais été écrit.
Mais
parce
qu'il y a des complètement.
Il y a des choses le bide total. Il y a des choses drôles. Par exemple, il y a l'aumônier, le premier aumônier des paras anglais qui saute et qui on lui demande ses impressions. Je crois qu'on lui demande d'ailleurs avant le saut. Et l'aumônier dit: jusqu'à maintenant, j'avais confiance en Dieu. Eh bien, maintenant, j'ai confiance dans la fille qui a plié mon parachute. Qui est une merveilleuse. Bon. Et alors, ce livre n'a mais absolument pas marché. Il y a des coups formidables, il y a des coups des parachutistes, parce qu'il y a un côté bricolage chez les premiers parents anglais, puis il y a l'humour anglais, enfin, il y a tout dedans. Ça n'a pas marché.
Et tu évoques la personnalité de Stirling, j'imagine.
Non, j'évoque pas les sas. Je m'arrête uniquement à la. Il y a le coup de Brunval, évidemment, et puis surtout la campagne de Tunisie, qui est une campagne totalement inconnue. Et puis alors après ça, tu me demandais pourquoi j'ai pas fait Arnhem, tout simplement parce que mon ami Michel Erubel a fait un livre sur Arnhem dans cette collection-là, chez Aux Presses de la Cité, que j'allais pas en faire un autre. Et puis à côté des parachutistes anglais, je me suis intéressé aux parachutistes américains. Il y a eu parachutistes américains, et il y a eu la particularité que j'ai fait un livre sur la 101e et la 101e Airborne. Et puis après ça, je me suis dit, je vais pas faire la même chose sur la 82e Airborne, et je vais faire un roman. Et j'ai fait un roman qui s'appelle Les Paras Perdus, et je suppose que je prends un groupe de combat d'une 10-15 gars de la 82e Airborne dans les marais de 40 ans. Et là, j'ai fait un roman qui, lui, par contre, a eu, je crois que c'est lui qui a eu le prix de la ville de Caen, enfin, qui a eu un certain succès, et qui est une histoire qui m'a, je dirais, beaucoup amusé à écrire. Parce qu'il y a des musées, puis il y a des choses qui sont intéressantes dedans, parce qu'il se trouve que ces Américains font partie de l'ancienne division de New York qui s'appelle All Americans, tous Américains, et qui regroupait des Américains de fraîche date. Mm-hmm. Donc il n'y en a pas un qui est Américain, vraiment, sauf un Indien. Il y a effectivement un Américain, c'est un Indien, mm-hmm. et les autres sont tous venus Italiens, tout ce qu'on peut rêver, Acadiens, Géorgiens, il y a même un Géorgien qui va retrouver un Géorgien qui combat lui dans l'armée allemande. Enfin, il y a tout un ressort romanesque avec un ressort presque policier. Il y a beaucoup de clins d'œil sur la Normandie, avec un espèce de personnage vieil autonomiste normand pro-anglais qui est absolument furieux d'être libéré par les Américains, qui se considèrent comme des moins que rien. C'est les insurgentes, les gars qui ont osé s'élever naguère contre la couronne. Et puis, il y a un correspondant de guerre qui s'appelle Blumenfeld, et que tout le monde appelait Blumenstein. Enfin, c'est tout un tas d'éléments assez curieux.
Et alors, il y a eu aussi les para-allemands.
Les para-allemands, j'ai fait un premier livre sur les para-allemands, la création des para-allemands, chose totalement méconnue en France, avec les premières opérations, notamment la Norvège, avec les para-allemands à Narvik. Et puis après, j'ai fait le livre que je considère comme mon meilleur livre sur les para-allemands, qui est l'histoire de la bataille de Crète. Alors, la bataille de Crète est intéressante parce que, comme d'abord, l'autre jour, j'ai lu une chose sur la Crète, j'étais stupéfait à relire les pertes allemandes qui ont été absolument, j'ai appelé ça d'ailleurs le tombeau des paras allemands, qui est absolument épouvantable. Et comme ils ont été largués un peu obligatoirement, il y a eu une dispersion, ils ne se sont absolument pas rendu compte de ce qui s'est passé. Et un officier allemand qui était jeune lieutenant à l'époque, qui après ça rentrait dans la Bundeswehr, m'a écrit en me disant, enfin j'ai compris ce qui s'est passé en Crète. Car lui a été largué, d'ailleurs pas largué, mais descendu par planeur sur Rétimion, et a été un de ceux qui a tout de suite été fait prisonnier et qui n'a finalement rien vu.
Mais dans les batailles, on vit toujours ce que vit Fabrice Del Dongo à Waterloo.
Mais oui.
Philippe Conrad.
Alors oui, avant de repasser la parole à Dominique qui doit nous parler lui de littérature, un petit mot simplement parce que l'activité de Jean a de multiples facettes et je voudrais rappeler aussi toute une partie de son œuvre qu'on n'aura pas le temps d'aborder en détail, c'est tout ce qui concerne l'histoire de la mer et l'histoire notamment de l'exploration polaire. Nous avons eu l'occasion de travailler beaucoup ensemble sur ces questions et je signale notamment à nos auditeurs sa remarquable biographie de Roald Amundsen qui est son dernier ouvrage sur cette question qui vient après Bering, après de nombreuses collaborations, des ouvrages collectifs sur l'histoire de la mer et de l'exploration.
Les 10 ans, c'est l'encre de marine. L'encre de marine pour la plupart des livres maritimes. Et ensuite, les Glénat, où j'ai fait 2 livres chez Glénat. L'un sur Bering et l'autre sur Amundsen. Celui sur Amundsen, d'ailleurs, a eu le prix de la Marine nationale, qui s'appelle le prix Encre Marine, qu'un amiral m'a remis à Toulon dans une ambiance très chaleureuse.
Alors moi, je veux dire une chose, c'est que je dois à Jean Mabir d'avoir commencé à écrire. Parce que mon premier livre, c'est toi qui me l'as fait écrire, Le Safari du Kaiser.
Mais oui.
Et te souviens-tu quand je rentrais d'Afrique, on est arrivé de déjeuner ensemble, et je te racontais les histoires de Von Leto, de la guerre de 14, et tu m'as fortement encouragé à écrire, et je dois dire que le premier livre que j'ai écrit, c'est grâce à Jean Mabir.
J'en suis ravi.
Donc tu vois, voilà, le début
d'une
longue carrière.
Oh non.
Dominique Vénère avait une question à poser à Jean.
Oui, je crois que tu as écrit quelque part, était-ce dans un article, était-ce dans un livre, peut-être de souvenirs, que après la guerre d'Algérie, tu étais passé du pistolet mitrailleur à la machine à écrire, mais tu avais déjà utilisé la machine à écrire avant le pistolet mitrailleur.
Mais en tout cas, je l'utilise toujours, c'est ça le problème. Je n'ai pas de traitement de texte.
La machine à écrire.
La machine
non,
à écrire.
Non pas le pistolet mitrailleur, bien sûr. Alors la machine à écrire, tu l'as abondamment fait marcher pendant toute ta vie et je pense qu'il serait intéressant d'évoquer une part essentielle de ton œuvre qui est en cours et qui va, nous l'espérons, durer parce que ton imagination est tes sources ou tes ressources sont sans fin et sans fond. Depuis 1991, tu as tenu une chronique dans un hebdomadaire, chaque semaine donc. Cette chronique a comme originalité d'être le portrait d'un écrivain. Et après en avoir publié beaucoup, puisque il y a 52 semaines dans une année, même s'il y a eu peut-être une ou deux interruptions pour cause de vacances.
Parce qu'on me chassait à cause de l'actualité, mais
oui,
c'est tout.
Oui, mais tu n'es pas...
Mais le papier était là, il était fait.
Tu n'es pas quelqu'un qui prend des vacances, de toute façon. Donc, ça fait beaucoup d'année en année... ça fait beaucoup de portraits d'écrivains et ces portraits ont été progressivement réunis en volume à raison de 75 biographies et donc portraits d'écrivains par volume et nous en sommes au 7e volume paru. Oui. Et si je calcule bien, cela signifie que en parution, en volume, il y a actuellement 525 biographies et portraits d'écrivains. C'est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que, et tu vas nous le dire dans un instant, je ne sais pas si tu imaginais quand tu as entrepris quelque chose d'aussi immense, mais aujourd'hui, ce que tu as écrit et publié, et qui n'est que partiellement publié, en volume, cela représente une véritable encyclopédie des écrivains du XXe siècle, parfois un petit peu du XIXe aussi, mais surtout du XXe siècle, C'est tout à fait unique. Alors, tu as écrit cela avec un esprit particulier, un style d'abord qui est le tien, et un esprit particulier parce que on trouve parmi les auteurs dont tu fais le portrait et la biographie, tu évoques la biographie succincte, l'œuvre essentiellement, on trouve la plus grande diversité. Tu vas nous parler des choix, mais je voudrais dire tout de suite aux auditeurs que le choix est le plus large que l'on puisse imaginer. Tu ne t'es en rien arrêté à d'éventuelles préférences personnelles, à d'éventuelles préférences politiques, philosophiques, même pas à des préférences littéraires ou esthétiques. Le prisme, l'éventail est le plus large que l'on puisse imaginer. Exemple, j'ai repris avant cette émission le tome 5. Et parmi les noms et les écrivains qui sont évoqués, on trouve aussi bien Julius Evola, le philosophe italien, qui est plutôt de tradition païenne, pour simplifier les choses, et Thérèse de Lisieux, qui est évidemment d'une tradition totalement différente. On trouve Léon Blois et Daniel Alévi. On trouve Léo Mallet et Jack Kerouac. Louis Powell, c'est Maxime Gorky. Walter Fleck, c'est Thomas Hardy. Enfin, etc. C'est absolument prodigieux comme ouverture. Alors, les questions. J'ai un tas de questions que je voudrais poser après avoir... D'abord, Stacy... Pour avoir conduit un tel travail, ça signifie que ta curiosité en matière littéraire est sans limite. Alors, d'où te vient cette immense curiosité?
Ah bah peut-être.
Quel en est le point de départ?
Le point de départ, c'est peut-être que j'étais un très mauvais élève, que je ne lisais rien quand j'étais en classe et que depuis j'ai voulu me rattraper.
C'est joli, mais enfin...
C'est venu très curieusement.
Les mauvais élèves lisent beaucoup.
Oui, mais autre chose à ce moment-là, autre chose. C'est peut-être ça, c'est peut-être là d'où vient ma curiosité. Oui, effectivement, j'ai lu un peu au hasard, un peu. Bon, ce qui est curieux, c'est que ça a commencé un jour de 1990 où Roland Gaucher et Jean Bourdier m'ont dit « Est-ce que tu voudrais nous faire un article ?» Bon, je dis « Oui, mais sur quoi ? Ben, ce que tu veux. » Alors je dis « Bah tiens, c'est curieux parce qu'il y a un sujet qui me plaît beaucoup depuis toujours et qui est Cyrano de Bergerac. » Et il y avait au même moment Cyrano de Bergerac au théâtre, je ne me rappelle plus avec qui, en même temps au cinéma, je crois, avec Depardieu.
Avec Depardieu.
Et là, j'ai fait un papier sur Cyrano de Bergerac qui a eu la chance de plaire à des lecteurs, de plaire à ceux qui allaient m'employer. On m'a dit, bah, tu vas continuer. Bah, j'ai dit, oui, mais je vais peut-être faire un écrivain. Alors, je crois que le papier numéro 2 a dû être sur Maurice Leblanc et Arsène Lupin. Et puis, j'ai continué. Maintenant, j'en suis au numéro 704 ou 705, enfin bon, j'ai
plus de 700 portraits,
et en venant dans le train, je travaillais sur un autre. Alors, d'abord, le mot écrivain, c'est pas tout à fait juste. Je sais qu'avec mon ami Paul Serrand avait fait des grandes réserves en disant, vous parlez de gens qui ne sont pas forcément des écrivains. Et puis, moi, je prends un exemple, Paul-Émile Victor. Mais il a écrit un livre. Par conséquent, ça me permet, au-delà de l'écrivain, de parler d'un homme, même si c'est pas, je vais parler d'Amundsen, parce que Amundsen a laissé 4 ou 5 récits d'exploration qui sont tout à fait intéressants. Il m'est arrivé de parler de journalistes qui n'ont pas fait de livres. Donc,
alors, justement, comment se fait le choix?
Oh, c'est le plus grand des hasards.
D'abord,
j'ai des listes.
De ces écrivains,
alors,
ou faux écrivains.
D'abord, j'avais une liste au départ d'environ 200 personnes, de ce qui me faisait 4 ans à peu près devant moi. J'ai cru que je terminerai jamais, quoi, sur 4 ans. Alors, il y en a certains, d'ailleurs, de la liste que je n'ai pas encore fait. Et puis après ça, sans arrêt, la liste augmente par le plus grand des hasards. D'abord, il y a une nécessité absolue. Je ne traite que des écrivains disparus. un de mes amis me disant un jour, quand feras-tu un papier sur moi, je disant, mais je suis pas pressé, parce que je le ferai quand alors, tu seras mort.
Alors Bernard Lugan, il ne figure pas.
Ah, Bernard Lugan, malheureusement pour moi, et heureusement pour lui.
Heureusement pour nous.
Heureusement pour, et malheureusement pour vous n'est pas encore au programme. Donc ça c'est pour moi, non, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je travaille dans un journal qui reprovoquait des lettres du style « Monsieur, je suis abonné à votre journal, membre d'un certain parti, j'ai écrit un recueil de poèmes et j'attends que Monsieur Babir me consacre une page entière ». Alors ça, non, là, faut pas trop m'en demander, alors je suis totalement maître de mes choix. Jamais on ne m'a dit il faut pas parler d'un tel, c'est moi qui décide. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je tiens à le dire. J'ai parlé des gens dont j'avais envie de parler, en bien ou en mal. Je dois dire que d'une manière générale, j'en parle plutôt en bien. Et je cherche dans l'œuvre des gens les plus divers ce qui peut nous intéresser, nous. Quand je dis nous, on peut penser, je dirais, notre clan, notre famille, appelons ça comme on veut. Et il m'arrive, et c'est ça, c'est une de mes grandes joies, au hasard d'une lecture, de trouver une phrase, je dirais, employons le mot carrément, politiquement incorrecte, fait par quelqu'un de très politiquement correct, et je suis absolument ravi de la ressortir. Donc là, il y a une espèce de côté... Un petit peu provocateur de cette série-là. Alors mon choix m'est dicté par d'abord il me faut que la personne soit morte. Il me faut que je possède une photo. J'ai énormément d'auteurs qui sont en ce moment en attente. Un seul exemple, je cherche depuis très longtemps.
Ben voilà, il faut lancer l'appel sur Radio Courtoisie.
Les réponses voilà. Ah ben oui.
Le premier nom qui me vient à l'esprit est celui de la baronne Orczy, qui est l'auteur d'un livre qui est une britannique, d'origine hongroise, auteur d'un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Le Mouron Rouge, dont on a fait un très beau film, et auteur de romans policiers, de nouvelles policières. Entre nous, les nouvelles policières que je lis en ce moment, ne me passionne pas. Mais Le Mouron Rouge est une histoire merveilleuse. C'est mieux qu'Alexandre Dumas. C'est l'histoire d'un aristocrate anglais qui décide de sauver des gens de la guillotine sans qu'évidemment il n'y a qu'une bande de copains. Ils vont se rendre en France et ils vont faire un tas d'exploits et arracher des gens à la guillotine. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en Angleterre, personne ne le connaît. Et en réalité, il apparaît pour les gens de son entourage, à commencer par sa propre femme, comme un espèce de dilettante qui se moque de tout et qui est uniquement c'est un snob de la plus belle eau. Et on
c'est un véritable agent secret britannique.
Exactement. Et on a fait dessus un film, il y a eu 3-4 films sur lui, et j'en ai vu un tout récemment parce que je comptais faire le papier en me disant c'est pas possible, j'ai pas de photo de la baronne Orczy, je vais peut-être mettre une photo du film. Bon, exemple.
Je
suis preneur.
À vos archives.
Autre personnage dont je suis preneur, je vous parle un petit peu de romans d'aventure, parce que même, j'aime bien romans d'aventure, ça me distrait des choses plus sérieuses. Michel Zévaco. Tout le monde a lu Les Pardaillants, tout le monde a lu Le Capitaine, et je n'ai pas de photo de Michel Zévaco.
Alors, chers auditeurs, à vos archives.
Alors là, j'avais une idée en disant, puisque je ne l'ai pas, je l'ai fait une seule fois. S'il y a eu un film tiré de son œuvre, je vais mettre une photo du film et je comptais mettre Jean Marais à la place de Michel Zévaco en disant, c'est pas Michel Zévaco, mais il a joué dans le film. Mais j'aurais préféré avoir une photo de Michel Zévaco.
Et comme ça. Flatteur pour Zévaco.
Voilà. Et pour. Je ne sais pas comment il était, ce brave homme. Et j'ai comme ça une cinquantaine de photos que je recherche qui me bloquent pour le moment.
As-tu d'autres photos?
Je ne suis pas amené ma liste.
Nos auditeurs vont trouver ces photos.
J'ai beaucoup de mal, et je le regrette, à respecter la parité. J'ai parlé de la baronne Orczy, j'ai fait évidemment un papier sur Agatha Christie, etc. Mais je voudrais faire davantage de femmes, à condition évidemment que je trouve à la fois photos et livres qui m'intéressent, car tout livre dont je parle m'a intéressé.
Anna de Noailles.
J'ai fait. Tout ça est fait depuis longtemps. Anna de Noailles est fait. fait. Ouais, Anna de Noailles, dont il y a un très joli mot.
Même la comtesse de Ségur.
Même la comtesse de Ségur. Ouais. Mais Anna de Noailles, il y a un très joli mot que je veux rapporter à nos auditeurs. C'était, elle était extrêmement volubile. Et un jour, elle se plaint parce qu'elle était, elle n'était pas croyante. Et on lui dit, mais oui, vous n'êtes pas catholique. Elle était plus ou moins la maîtresse de Barès, mais elle n'était pas catholique. Et on lui dit, enfin, vous n'êtes pas croyante. Elle dit non, Dieu ne m'a jamais parlé. On lui dit, vous lui avez jamais laissé le temps. Bon, alors, je découvre des choses comme ça qui me font rire. C'est un métier merveilleux, mais un métier qui devient très prenant. Parce que lire est une chose. Au début, j'ai parlé des livres que j'avais déjà lus, donc je jetais un petit coup d'œil et j'avais pas à les relire. Là, maintenant, j'en suis de plus en plus dans les livres que je découvre. Alors, j'en ai toute une pile, et c'est un travail énorme et qu'il faut essayer tout en faisant un travail énorme de le faire lire au lecteur et qui lui croit que c'est facile. Et que j'ai écrit ça vraiment, comme me dit un de mes amis, c'est pas difficile, tu as un dictionnaire et tu copies un dictionnaire. Effectivement, si j'avais le dictionnaire en question, ça m'arrangerait bien.
Alors, quel est le lien, parce que ça fait partie des critères de choix, quel est le lien entre des écrivains aussi différents que Aragon, Camus, Malraux, Boris Vian, tout ça, on les retrouve dans le volume 5, je crois, Jacques Bainville.
Au début, il y avait peut-être un certain lien dans les premiers articles et les premiers livres de gens qui m'étaient, sympathiques, proches, etc. Maintenant, il y a des gens que je fais parce que je dois en parler. Il y en a que j'ai encore jamais fait. Il y en a certains que je n'ai pas l'intention de faire parce qu'ils ne me disent vraiment rien. Alors je ne veux pas m'infliger le pinceau, mais l'infliger à mes lecteurs. Mais les gens sont très divers. Ce qui me plaît, c'est leur diversité. Jacques Bainville, parce que je dirais qu'il est incontournable en tant qu'historien, mais je ne partage pas du tout ses idées. Et Aragon également est un écrivain, à mon avis, incontournable. Ça a été un ami de Drieu. Enfin, il y a un tas de choses qui m'ont intéressé chez Aragon. Pas l'Aragon que j'ai pu connaître. C'est drôle. J'ai connu Aragon un petit peu après la guerre, et c'est drôle parce que j'étais à une réunion où il était là, et le pauvre Aragon, qui était un communiste très orthodoxe, se faisait chahuter par les trotskistes. C'était un spectacle. Mais c'était pénible d'ailleurs, parce qu'à tel point, il était complètement dépassé par ce chahut énorme, alors qu'il était d'habitude considéré comme un personnage totalement intouchable. Et puis là, il était mal tombé à cette réunion-là. Aragon a des choses intéressantes.
Mais ce qu'il faut dire, alors ça, c'est le lecteur qui va le dire, chez ces écrivains extrêmement différents, appartenant à...
De plus en plus différents, d'ailleurs.
Appartenant à des familles...
Plus je vais, plus ils sont différents.
Oui, familles politiques, familles littéraires très, très différentes. On a le sentiment que, toujours, tu retrouves, tu essayes et tu réussis à trouver une vérité profonde chez cet auteur-là. Et cela indépendamment de tes préférences personnelles,
oui, mais
qui n'apparaissent absolument pas dans le portrait que tu fais.
Oui.
Tu disais que tu n'avais pas de sympathie particulière pour l'idée politique de Jacques Bainville, pas tellement plus pour celle d'Aragon, dans un genre très différent, ou de tel ou tel ou tel, mais ça n'apparaît pas. Je me souviens très bien de ton portrait de Jacques Bainville. Ce que tu mettais en lumière chez lui, c'était sa méthode. Donc, tu montrais chez ce grand écrivain et ce grand historien la méthode, qui est le point fort, en effet. Tu ne discutais pas les engagements qui étaient les siens. Et ainsi de suite, chez tous ces écrivains, tu montres aussi, et c'est parfois tout à fait stupéfiant, car on n'attend pas cela, tu montres chez eux un enracinement, c'est-à-dire que ces écrivains ne peuvent pas s'expliquer en dehors d'un certain terreau.
Alors là, c'est une chose qui m'a souvent été reprochée. Je pense qu'il doit exister des pastiches méchants que des copains ont pu faire de la manière dont je fais...
À la manière
des colliers. Je crois qu'il n'y a pas un portrait, et quand je ne le fais pas, c'est vraiment, j'ai beaucoup cherché, où je ne parle pas de ses origines, non seulement au point de vue terreau, mais au point de vue famille, de son père et de sa mère. Je crois qu'il n'y a pas un portrait, et ça, on a quelquefois plaisanté, fils d'un facteur et d'une employée des postes, qui, etc., enfin, les choses les plus diverses, mais je cherche à savoir d'où ils viennent, ce qui les a fait, comment, et je me suis aperçu, au fur et à mesure, je travaille, que le début, comme disait le personnage des plaideurs, ce que je sais mieux, c'est mon commencement, j'ai souvent tendance à m'apesantir sur les origines familiales, sur la jeunesse, sur l'éducation, sur les expériences, et moins à la, bah, comme je dis que sans ligne, hein. Je dis que sans ligne, c'est pas tellement, et je les compte, alors quelquefois, à chaque fois, il y a marqué 3, 4, 5, 10. Hier, j'avais 8 lignes en trop sur un personnage, il a fallu que je coupe 8 lignes, et c'est pas commode de couper. Mais je m'intéresse peut-être plus à savoir d'où ils viennent que de faire un catalogue de l'œuvre qui est secondaire, en quelque sorte. Et puis alors, il y a une différence essentielle entre l'article qui paraît chaque semaine, l'article hebdomadaire, et le livre dans lequel il y a une partie bibliographique qui est considérable, qui représente le quart du livre. Chaque écrivain dans le livre a droit à 4 pages. Il y a une page entière de bibliographie. Et si elle est pas, si on n'a pas, s'il y a pas assez, la page est en partie blanche. Mais il y en a au contraire où ça devrait déborder, où on a coupé, on a limité volontairement avec mon éditeur, on a limité volontairement la biblio à une page. Mais la partie biblio pour moi est très importante. Je suis pas un fanatique de la bibliographie, mais je considère que c'est quand même indispensable. Et mes articles ont incontestablement, moi qui n'ai jamais été professeur, un but pédagogique. Il est certain que je souhaite toujours que les gens, après avoir lu mes articles, aillent plus loin, qu'ils se mettent eux-mêmes à lire.
Ah ben c'est ça, ça donne envie, évidemment. Ça donne envie de se reporter.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la partie bibliographique est importante.
Aux œuvres, oui, oui. Alors, il y a aussi, chez toi, une réflexion qui est un petit peu récurrente. Tu privilégies chez les auteurs ce que tu appelles l'engagement. Et tu manifestes, semble-t-il, un intérêt moindre, tout en parlant, pour
la littérature pure.
La littérature pure.
L'art pour l'art, voilà. La tour d'ivoire, etc. Voilà.
En effet.
C'est certain, j'ai une réaction très nette contre l'isolement de l'écrivain coupé du monde et méprisant à l'égard du monde. Ça, c'est absolument. Également, j'ai beaucoup de prévention contre ce que j'appelle les écrivains illisibles. Je n'ai pas traité Barthes, Foucault, Roussel, enfin il y a un tas de gens qui sont considérés comme les sommets de la littérature et que je me sens que je n'arrive pas à lire. Ça, c'est pour moi, je ne peux pas parler d'un écrivain que je ne peux pas lire.
Et as-tu une période de prédilection?
J'en ai deux. D'abord, au début, je voulais faire uniquement le 20e siècle, et puis j'ai fait de plus en plus des incursions dans le 19e. Alors, j'ai deux périodes qui m'intéressent. La première, qui était au fond la période initiale de ma démarche, c'était la période entre les deux guerres.
Ouais,
tout simplement parce que j'avais hérité de la bibliothèque de mon père, et que c'était des écrivains que j'avais lus moi-même, d'abord, que j'avais aimés, et puis qui, pour beaucoup, continuer encore soit à vivre, soit à être connu. Et puis qui en plus de ça, qui remplissait la condition première d'être mort. Donc c'était une période qui pour moi, et puis une période absolument passionnante, on ne va pas citer tous les écrivains de l'entre-deux-guerres. Et puis après, dans un second temps, je me suis intéressé beaucoup, et alors là on rejoint peut-être ce où il y a un moindre engagement, à la période charnière entre le 19e et le 20e siècle, à ce qu'on appelle les écrivains de la belle époque, parce que tout à l'heure tu parlais de Gip, Gip c'est quand même mieux qu'on ne croit, il y a quand même un tas de choses intéressantes, et j'aime bien cette époque-là, cette époque de la fin 19e début 20e.
Et parmi les écrivains étrangers, hors du domaine français, as-tu une prédilection particulière pour le monde anglo-saxon, scandinave, allemand, italien, espagnol?
Oui, alors moi je vais aller à l'envers. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de portugais. J'ai des livres, mais c'est des livres énormes que j'ai pas encore lus. J'attends de les avoir lus pour en parler quand même.
Et des portraits, des
portugais,
photos.
Non, italien peu, espagnol très peu. Parce que ça s'est passé comme ça, effectivement, et j'ai une grosse prédilection pour la littérature anglo-saxonne, éventuellement germanique et scandinave. Et alors, par ailleurs, il y a aussi une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je suis également guidé par des lecteurs qui m'envoient des documents ou qui m'envoient des livres. J'ai un ami, notamment, qui habite Bruxelles et qui, à peu près, une fois par mois, m'envoie deux ou trois livres en disant, ben voilà un écrivain qui pourrait rentrer dans tes que lire, lis-le. Et récemment, j'ai parlé comme ça de Marie Jevers, que je ne connaissais pas, et qui m'a vraiment passionné, et c'est vraiment assez extraordinaire.
Alors, parmi les auteurs européens, précisément italiens, il y en a un auquel on ne pense pas nécessairement comme un écrivain, mais qui a trouvé place dans l'un de tes que lire, c'est Hugo Pratt.
C'est Hugo Pratt d'abord parce que c'était un ami, et puis parce que Hugo Pratt est quand même le personnage qui fait lui-même les dialogues. C'est pas uniquement un dessinateur.
Donc, il a été un grand lecteur de Jean Mabille,
puisqu'il s'est servi.
Il a lu Ungern, voilà. Le Baron Fou.
Et, oui, mais attends, là c'est ce que je tiens à dire, puisque le micro m'est donné. Non seulement il l'a lu, mais il a reconnu qu'il l'avait lu. Ce qui est une chose rarissime. Et quand je voyais Hugo Pratt à une réunion, à un cocktail, une chose comme ça, il ouvrait ses bras. Oh, mon ami, on m'a bien, etc. Des grandes embrassades. Bon, j'aime ça plus ou moins, mais enfin, j'étais tout content qu'il me reconnaisse parmi ses amis. Et il a déclaré, publiquement à différentes reprises lors d'interviews en disant, mais comment, vous êtes ami avec Jean Mabille? Il dit, bien sûr, c'est un ami. Point. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le courage d'Hugo Pratt en cette occasion-là, puis en beaucoup d'autres d'ailleurs.
Jean Mabille, merci. Les auditeurs nous posent quelques questions, très rapidement.
Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, combien y a-t-il de volumes dans la collection Action?
À mon avis, entre 20 et 25. Mais le nombre exact, je crois que c'est de 24, mais je ne vous l'affirme pas.
Et un auditeur voudrait savoir si vous avez conservé votre admiration pour Monterland, qui fut un des écrivains fétiches de votre jeunesse.
Bon, alors là, ça exigerait une émission. Bon, alors,
bien. Il nous reste deux minutes.
Je dirais que je continue à aimer l'œuvre, mais ce que je sais sur l'homme ne m'incite pas à la relire. Donc je resterai avec mon admiration d'autrefois.
Victoria.
Et puis pour Dominique Vénère, à quand la réédition de Gettysburg et de Le cœur rebelle?
Ah ben, Gettysburg est toujours disponible aux éditions du Rocher. Le cœur rebelle, alors là, il y a peut-être une petite difficulté. En principe, il est toujours disponible, mais l'éditeur Les Belles Lettres avait subi un sinistre terrible avec la disparition de son fond lors d'un incendie, mais à ma connaissance, il doit rester encore quelques exemplaires du cœur rebelle, aux belles lettres.
Très bien. Alors, j'ai une annonce à faire. Le Huguette Pérol dédicacera Ouragan sur le Vatican vendredi prochain, 19 décembre, de 17h à 19h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e, métro Saint-Michel. Autre dédicace, même jour et même heure, Ignace se met en quatre. Enfin, Jean-Pax Méfray dédicacera Bastien Thierry jusqu'au bout de l'Algérie française, samedi prochain, 20 décembre, ainsi que ses chansons rééditées en disque compact. On nous demande de redonner l'adresse de l'association qui construit des écoles au Mali. Alors, c'est Action Sahel, Monsieur Albert Tillen, 24 Avenue de l'Europe, 78 160 à Marly-le-Roi, et le téléphone 01 39 58 09 70, et puis actsahel@aol.com. On nous demande aussi les coordonnées du mouvement normand. Alors, association Les Amis de Jean Mabir, boîte postale numéro 6, 27520 à Boisset, B-O-I-2-S-E-Y, Le Châtel. Et pour se procurer les 7 volumes de Que lire, édition Irminsule, boîte postale 5051, 69245, Lyon-Cedex 05. Et alors, je rappelle que pour l'Afrique réelle, l'adresse est boîte postale 6-0340 à Charroux. L'abonnement pour les 4 numéros, c'est 68 euros. Le numéro 141 seul, 20 euros franco. Voilà. Et pour God Bless Africa, vous pouvez aussi, à la même adresse, le demander pour 60... Combien ?
Non, enfin,
God Bless, 20 euros.
Bien. Les annonces sont terminées, Victoria ?
Oui.
Je peux prendre congé des auditeurs ?
Vous avez le droit.
Merci, Victoria.
Mais vous avez encore 30 secondes.
Merci, Victoria. Jean Mabir, merci.
Bah, c'est moi qui te remercie.
Albert Hélène, merci.
Et puis j'ai aussi, attendez, j'ai oublié.
Dominique Vénère, merci.
J'ai oublié.
Philippe Conrad, merci. À vous, Victoria.
J'ai oublié
merci,
de dire le titre du chant breton qu'on a passé. C'était extrait du disque compact Celtica, le meilleur de la musique celtique, Bretagne, Irlande, Écosse, référence CNOE02.
Bonsoir Victoria, rendez-vous pour notre prochaine émission le mercredi 4 février. Nous n'avons pas d'émission en janvier, mercredi 4 février. Chers auditeurs, bonsoir.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 27 décembre de 18 à 21h, en différé jeudi 28, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez des cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.